Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Exactement, midi, une minute, vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV, Antonine Niacarini, comme à l'habitude, qui va nous faire son caucus dans quelques instants. Un caucus format spécial pour la première partie du caucus, parce qu'on a invité l'ami Lambert Drainville, qui normalement, les mercredis, fait une chronique aux alentours de 13h05-13h10. On y a dit, viens donc joindre Antonine, parce que, hey, boy, ça bouge les sondages!
Ouais, c'est comme un party de sondages.
Ouais, exactement. Donc, on va faire interagir nos deux cracks de la politique provinciale ensemble.
Politique québécoise, Jeff.
Politique québécoise, c'est vrai, car nous sommes une nation. Tu me reprends toujours. Mais je sais pas pourquoi je dis toujours politique provinciale.
Ben, c'est normal.
Parce que je suis politique fédérale, tout simplement.
Ben oui, il y a plein de monde qui dit ça, mais moi, je suis la police de la nation. Alors,
Il y a la police du français. Et il y a la police de la nation avec Antonine Niacarini. J'adore ça. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien. J'espère cool. que vous aussi.
Bien sûr. Moi, j'adore des journées comme ça, remplies d'actualités, de rebondissements. Et je disais à ma blonde hier comment j'adore ma vie routinière de faire de la radio, faire une sieste à l'eau de gym, passer du temps avec les miens après. Good check vibes check. Only. Yes! Pascal, on perd pas de temps. On n'a pas le choix, on vient de le dire. Il y a des nouveaux sondages qui sont sortis. C'est pas l'avantage du Parti québécois, c'est un parti libéral qui gagne en popularité. Est-ce que tu peux nous résumer le tout?
Oui, on se dirige vers un duel serré. On en reparlera dans quelques instants, mais là, on est à 31% dans les intentions de vote pour le Parti québécois, puis suivi de près par le Parti libéral qui semble se remonter là, avec Charles Milliard. Est-ce seulement Charles Milliard? Là est la question. Mais il est à 30%. Alors, c'est une montée de 4% pour le PLQ depuis le dernier coup de sonde. Ça peut toujours changer. Hein? Ce sont des sondages, mais quand même, voici le pouls. Et là-dedans, ce que je peux ajouter, c'est que pour le PQ, là, on persiste et signe. Il y aura une consultation pour faire du Québec un pays. On est revenu là-dessus aussi ce matin. L'Italie a autorisé l'extradition de Dave Picturmel, le grand chef de la Blood Family Mafia. Donc, on va pouvoir ramener le jeune Caïd ici le 2 mars. Première étape pour ramener au Canada, c'est ce qu'on disait. Mais c'est toujours le criminel le plus attendu, tiens, au pays depuis très longtemps. Alors, oui, on a rendu du jugement et on va pouvoir le ramener à la maison, peut-être pour plaire à sa mère un peu moins à lui, j'ai l'impression. Et les Canadiens coincés au Moyen-Orient, il y a un nombre limité de sièges qui sont réservés par Ottawa à bord des vols commerciaux pour les ramener depuis Beyrouth. Ça fait beaucoup réagir. Qui on va mettre dans ces vols-là? Qui on va asseoir dans les sièges? Mais il y a un bon nombre de Canadiens puis de résidents permanents qui ont inscrit leur présence au Moyen-Orient et qui veulent revenir. Tout ça dans les pays du Golfe. Ça dépasse désormais le plateau des 103 000 personnes. Et je lisais dans les dernières 20 minutes, là. T'sais, Dubaï, qui était un paradis en termes de sécurité, qui fait partie de ces pays-là. Maintenant, peut-être que son visage aura changé et ça surprend tout le monde.
On va en parler tout à l'heure avec Christine Normandin, leader du Bloc québécois aux alentours de 13h15, sur est-ce que le Canada prend les bons gestes, fait les bons gestes pour justement rapatrier le plus de gens possible.
Et clin d'œil sur le prix de l'essence, on va en jaser avec un dossier complet un peu plus tard, mais oui, ça augmente.
Oui, exactement, ça a augmenté de 10 à 15 sous dans la région de Québec. Pascal, tu nous as préparé un excellent dossier là-dessus. Il y a des stations-service qui ont manqué d'essence hier dans le coin de Beauport. C'était sur les spotted Beauport de ce monde. Donc, on est en pleine crise, comme lors de la COVID. 418-971-1021 pour interagir avec nous en studio. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments qui s'y retrouvent. Également, c'est notre web radio BLVD 102.1, disponible sur App Store, Google Play Store. C'est l'application que tu dois télécharger pour nous écouter partout sur la planète. Twitch.tv/BLVD/FM. Viens nous voir, on n'est pas sorteux, on est en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car les podcasts s'y retrouvent et le caucus avec Antonine Niacarini également, qui s'y retrouve à chaque jour. D'ailleurs, on passe immédiatement au...
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonine Niacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus spécial aujourd'hui, car c'est un caucus avec Antonine Niacarini, Lambert Drainville pour la première partie. Pascal vient de nous faire un résumé parfait pour ce qui est des sondages. Le PQ était à 39% au mois de décembre, selon Léger. au plus fort... au plus fort du scandale des Brownies.
Exact.
Et là, ils sont maintenant 31%. Le PLQ à 30%. Avant de passer à des extraits des différents chefs que j'ai, je vais vous demander, Antonine et Lambert, une première analyse de ces résultats-là. Antonine, je commence avec toi, les femmes d'abord. Comment tu analyses les résultats de ce sondage-là?
Bien, moi, ce que je retiens de ce léger, c'est que ça bouge. Donc, on peut refaire des sondages à tous les mois, je pense, dans les 3 prochains mois et avoir, à mon avis, là, un portrait qui va être différent. Pourquoi ça bouge? Parce que, effectivement, quand le PQ était très haut dans les sondages avant Noël, ben, c'est que les autres partis n'allaient pas bien. Donc, tu avais une CAQ avec François Legault très usé. Il avait essayé beaucoup, beaucoup de choses. Ça n'a pas levé. Du côté du PLQ, ben, on était vraiment dans les gros scandales avec les Brownies, la crise avec Pablo Rodriguez. Et même QS, ça n'allait pas très bien. Hein. Je rappelle quand même que Vincent Marsal est parti avec quand même pas mal de fracas, parler contre son parti. Finalement, le PQ a profité un peu du malheur des autres. Là, il y a des choses qui se sont replacées. Donc, le Parti libéral a un nouveau chef. C'est sûr que ça change un peu la dynamique. Même si on ne le connaît pas, même si on ne l'entend pas, même si on ne sait même pas c'est quoi son programme, sa vision, ça fait déjà bouger un peu l'aiguille. Et la CAQ est en course à la chefferie. Donc, ce sondage-là, il va falloir le regarder sur une tendance un peu plus longue. Il ne faut pas penser là, que ça s'est coulé dans le béton.
En effet, Lambert Drainville, tu en penses quoi?
J'en pense que c'est tout un boulet ce qui est en train de se passer sur la scène internationale pour le Parti québécois. Eux, ils avaient réussi à vraiment rallier là, t'sais, à ce que tous les gens qui sont déçus de la CAQ se rallient derrière eux. On l'a vu, ça fait au-dessus de 2 ans qu'ils sont en mesure de faire ça, que ce soit dans Terrebonne, que ce soit dans Jean Talon, dans les différentes élections partielles, on a clairement vu ça. Et là, Trump, les tarifs, rajoute à ça là, la plus récente guerre au Moyen-Orient, ça a un effet très, très difficile pour l'appui à la souveraineté, évidemment, qui est à son plus bas. Écoute, depuis le référendum de 1995, c'est quand même pas rien. Donc tout ça combiné évidemment à l'effet de récence et à l'arrivée de Charles Milliard qui non effectivement n'a pas été exhaustif sur le contenu de ses propositions, mais on s'entend que déjà il semble plus en contrôle, il semble plus en selle que l'impression que nous avait donné Pablo Rodriguez en arrivant en poste. Fait que tu combines tout ça puis ça donne le résultat d'aujourd'hui. Et on pourra rentrer dans le détail un petit peu plus tard, mais c'est particulièrement les populations les plus âgées qui font bouger la balance. Et ce n'est pas surprenant, évidemment, que quand on vit une situation d'instabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont généralement les 55+ qui sont les premiers à avoir froid dans le dos. Et c'est grandement suivant tout ça que c'est eux, au fond, qui font sérieusement bouger la balance dans le sondage d'aujourd'hui.
À retourner au bercail libéral. Je vous fais entendre les 3 chefs des principaux partis, c'est-à-dire Paul Saint-Pierre, Plamondon, Charles Milliard et Christine Fréchette. Christine Fréchette ou Bernard Drainville, mais c'est Christine Fréchette là, qui était en entrevue à LCN ce matin. Donc, on écoute Paul Saint-Pierre, Plamondon en premier lieu, où il mentionne à Mario Dumont, « Au minute, Monsieur Dumont, je suis pas si à terre que ça. » Vous oubliez une donnée importante.
Non, parce qu'il y a des chiffres que vous avez omis. Lorsqu'on regarde chez les francophones, c'est 39% pour le Parti québécois contre 19% pour les libéraux, 17% pour la CAQ. Donc, la hausse dont vous parlez, elle provient beaucoup des allophones et anglophones qui votent à, tenez-vous bien, 65% pour le Parti libéral du Québec. Et ça, malgré le fait que l'UPAC est toujours en train d'enquêter. On sait que l'UPAC, quand elle enquête, elle recherche des activités criminelles. Donc, si on se réfère au test de Chicoutimi il n'y a pas si longtemps, le Parti québécois a obtenu 45% et le Parti libéral 9%.
Le seul problème avec ça, Lambert, c'est qu'on s'en va plus vers un minoritaire qu'un majoritaire, malgré le fait qu'on score bien aux francophones.
Oui, puis ça sera intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont jouer avec tout ça. La réalité, c'est qu'ils sont un peu pris dans un étau, Jeff. On en a déjà parlé, toi puis moi, ensemble. L'alternative, c'est quoi là, pour eux? Là? L'alternative, c'est quoi? C'est de mettre le frein, c'est de repousser le référendum dans un deuxième mandat, c'est de reculer sur une promesse forte que Paul Saint-Pierre Plamondon tenait alors que les gens ne savaient même pas c'était qui ce gars-là et qu'il a continué de tenir jusqu'au plus haut des sondages pendant 2 ans. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont aucun contrôle sur tout ce qui se passe. C'est probablement la conjoncture, la pire conjoncture qui aurait pu arriver pour eux autres. Alors, bien honnêtement, je me mets dans les souliers d'un stratège péquiste et c'est vraiment, vraiment pas évident leur situation. Ils ne peuvent, bien honnêtement, ça, c'est mon avis, que se boucher le nez et essayer d'être le plus lucide possible sur la situation en espérant que cette conjoncture-là change, en espérant de se rendre jusqu'à l'élection. Avec, disons, ce boulet-là, en espérant que ce boulet-là les tire le moins possible au fond de la mer et que la conjoncture change au plus vite, que les choses se calment et éventuellement, ben, il y aura un après Donald Trump et il y aura un jugement sur la loi 21 et il y aura le recensement national où on observera probablement un recul spectaculaire du français. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans leur situation présentement que de s'accrocher. Évidemment, Charles Milliard, je le trouve beaucoup plus fringant, beaucoup plus rassurant que Pablo Rodriguez, comme je disais en ouverture.
C'est sûr que pour Paul Saint-Pierre, Plamondon, d'incarner quelque chose de rassurant, incarner la confiance, c'est plus difficile parce que le projet politique du PQ, c'est un changement drastique, alors qu'on peut avoir une soif de stabilité, alors que le monde nous semble très, très instable. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose. Tu sais, là, on dit que c'est la pire conjoncture. C'est sûr qu'elle est assez particulière, mais il y a eu des crises économiques, il y a eu toutes sortes de choses qui... Tu sais, quand on est contre la souveraineté, il y a toujours une bonne raison, là, qu'elle soit économique, culturelle, il y a toujours quelque chose. Donc, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il devait commencer à reculer, bien là, l'élément de confiance qu'il a, parce qu'il inspire confiance, pas par son projet, mais parce qu'il a dégagé depuis le début, c'est-à-dire quelqu'un qui assume ses idées, qui dit ce qu'il pense, qui est très, très intègre, il a montré une grande intégrité. Des fois, il peut être un peu moins rassurant dans ses sautes d'humeur, mais ça, c'est un autre...
À plat ventrice,
mais d'acuité.
Vacuité intellectuelle.
Mais, cela dit, s'il devait reculer plus que ce qu'il a fait. Donc moi, si j'étais stratège péquiste en ce moment, je dirais, on continue de marteler la ligne suivante. On va être responsable, on ne va pas se garrocher là-dedans, tête baissée. On est conscient de ce qui se passe. Vos anxiétés sont valides, chers Québécois. On comprend, on va être responsable, on aura un bon gouvernement. Et un gouvernement majoritaire du PQ aura 4 ans pour voir c'est quoi le meilleur moment. Trump ne sera pas là pour toujours, blablabla. Bla, bla. Ils ne peuvent pas faire autre chose.
Comme il a fait après Chicoutimi, dans le fond.
Bien, qu'ils maintiennent cette ligne-là, moi, ce serait mon conseil si j'étais à l'interne.
On écoute Charles Milliard en entrevue sur les ondes d'LCN à Québec Matin.
Une donnée qui est intéressante, c'est que 74 % des Québécois estiment que ça va mal au Québec, puis 72 % veulent du renouveau. Alors, je pense que c'est un jugement qui est assez sans appel sur la coalition Avenir Québec. Maintenant, ça va être aux Québécois de choisir qui incarne mieux ce renouveau-là. Moi, je suis nouveau en politique, effectivement, mais je ne suis pas nouveau dans le secteur de l'économie, de la santé, de l'éducation. Alors, je vais faire valoir ça dans les prochaines semaines. Mais évidemment, bâtir une notoriété, c'est un défi, mais c'est une opportunité aussi. Je pense que c'est plus facile de se faire connaître que de demander à quelqu'un de changer d'opinion sur moi. Alors, je vais continuer de travailler.
Je suis tellement d'accord avec ceci, Antonine, la fin de son intervention. Puis je pense que c'est ce qui explique que la CAQ, que ce soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette, on est entre 13 et 15
%. Oui, parce qu'en politique, l'effet de nouveauté, ça a toujours un impact qui est positif ou à peu près. Il faut montrer qu'on est capable d'incarner un changement. Puis c'est un cycle politique qui est normal, OK? Il y a comme un effet de nouveauté. Après ça, il y a une lune de miel. Après ça, il y a l'usure du pouvoir. Puis les gens ont envie d'avoir autre chose de nouveau. Mm-hmm. Ce sont des cycles naturels. Puis c'est vrai qu'une fois que quelqu'un a une opinion négative de toi, c'est assez rare que quelqu'un t'aime pas puis il va se mettre à t'aimer, alors que c'est pas rare du tout.
François Legault est un bel exemple.
C'est un bel exemple. C'est sûr que quand on est méconnu, bien, là, les gens peuvent imaginer un peu n'importe quoi. Donc, en ce moment, Charles Milliard, c'est un grand mystère pour la plupart des gens. Personne ne sait qui. Puis en plus, on n'a aucune idée c'est quoi son projet politique. Honnêtement, peux-tu me nommer? Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il parle de PME. Ah bon, tout le monde est pour ça, les PME. Là,
il a martelé le Parti libéral et le Parti de l'économie et de la gestion saine des finances publiques. Je pense que c'est la ligne qu'il faut qu'il y ait. Êtes-vous d'accord avec moi, Antonine Lambert?
Oui, mais tu sais, mais encore. On ne sait pas concrètement. Puis c'est quoi ta position sur la laïcité, la langue française,
l'économie,
l'immigration?
La gestion des finances publiques.
Ben c'est ça. Mais le diable sera dans les détails. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se mettre à moins l'aimer. C'est naturel.
Ben oui.
Quand ils vont avoir des précisions. Parce que pour l'instant, tu projettes ce que tu veux. C'est comme la boîte mystère, là, pour l'instant. Mm-hmm.
Lambert, qu'est-ce que tu en penses des commentaires de Charles Milliard? Puis est-ce que le Parti libéral a des chances de redescendre plus on va connaître Charles Milliard?
Bien, c'est sûr. Comme dit Antonine, c'est cyclique. Tout le monde passe à travers cette espèce de cycle politique-là et le temps va faire son œuvre et que ce soit plus tôt ou plus tard, tout le monde passe au travers. Mais l'effet de récence, il est bien réel. Tu le vois avec Charles Milliard, puis tu le vois avec Christine Fréchette, tu sais, qui, par rapport à Bernard Drainville, représente beaucoup plus la nouveauté au sens où les Québécois la connaissaient moins. Bernard est en politique depuis très, très longtemps. Et ça fait en sorte qu'il est perdant à ce titre-là par rapport à Mme Fréchette, qui a un potentiel de croissance beaucoup plus grand que lui. Charles Milliard, moi, je pense que son plan de match, il est très facile, tu sais, puis je me mets dans la peau d'un stratège libéral, là. Présentement, on a une situation où ce que les gens ne veulent pas d'un référendum, malgré que ce soit le Parti québécois qui ait réussi, comme je disais tantôt, à rallier le sentiment anti-CAQ, ne veulent pas d'un référendum, donc ne veulent pas du PQ, ne veulent pas, excuse-moi, ne veulent pas du référendum,
donc,
ne veulent potentiellement...
Par rapport à ça, Lambert, lorsqu'il dit « Je suis le seul et unique chauffeur de l'autobus du non », toi, tu continues avec cette ligne-là?
Pas tellement, non. Quand je dis qu'il y avait un plan de match plus évident, je veux dire, il va continuer avec cette ligne-là, mais je pense pas que c'est à son avantage et je pense qu'il le sait qu'à un moment donné, c'est un peu vide de contenu là, que de simplement dire, ben votez pas oui parce que.
Mais ça
non,
marche. Mais ça marche. Ça a tout le temps marché. C'est ça qui est choquant un peu quand tu regardes le Parti libéral. Si tu fais pas d'erreur, que t'es pas trop mauvais, que les gens ont peur d'un référendum puis que tu dis emploi-économie, crime, t'as des bonnes chances de gagner.
Hey, regardez, je fais Charles Milliard, OK? Avez-vous peur d'un référendum?
Oui! Oui!
Est-ce que les libéraux, c'est le parti de l'économie?
Oui! Oui!
Est-ce qu'on gère sainement les finances publiques?
Bof!
Votez pour moi!
Ouais, c'est ça. Il faut quand même se rappeler, tabarouette, qu'il y a trois mois de cela, on était pognés dans les affaires de brownies, de financement un peu weird.
Je le sais, on a tout oublié ça. Il y a de la corruption.
Ouais, ça va revenir, ça va revenir.
D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé un petit jab là-dessus dans dans l'extrait que j'ai fait jouer, dans le sens que, hey, oubliez pas que l'UPAC est là-dedans, puis l'UPAC, c'est criminel. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix d'essayer de ramener ça, Paul Saint-Pierre Plamondon, Lambert.
Ah, puis ça va revenir de toute façon. Le résultat, les enquêtes vont tomber une après l'autre, puis il va devoir se dépatouiller avec ça. Je trouve que parfois, les Québécois ne font pas beaucoup honneur aux slogans qu'on a sur nos plaques d'immatriculation. Mais quand je disais que son plan de match était plutôt évident, moi, c'est que justement, tu sais, la porte est grande ouverte. Les gens ne veulent pas de souveraineté, les gens veulent plus de la CAQ. Fait que là, la porte est grande ouverte pour lui. Il va juste, puis là, effectivement, le diable sera dans les détails, comme Antonine disait, mais. Ça lui prend pas grand-chose. Déjà, tu le remarques, il martèle beaucoup le nationalisme, il martèle beaucoup Robert Bourassa, Jean Lesage. Il va lui falloir 2-3 propositions sur la langue et sur les enjeux identitaires qui vont un peu plus loin que ce que le parti, que comment le Parti libéral s'est positionné dans les dernières années sur ces enjeux-là pour convaincre les Québécois qu'effectivement, il est plus nationaliste que ses prédécesseurs chefs du Parti libéral.
Bon point.
Puis pour moi, ça prendra pas plus que ça. Et M. Milliard, si tu veux mon avis, Jeff, sera une très, très, très grande menace pour une victoire. Là. On parle pas juste pour faire descendre le Parti québécois. Pour une victoire en 2026, moi, je pense que son plan de match, il est le plus facile, le plus simple, le plus évident de tous les chefs de parti qui vont être en lice en octobre.
On écoute Christine Fréchette en entrevue avec Mario Dumont.
On est encore dans une course à la chefferie, hein, à la coalition Avenir Québec. Puis je vois que les appuis que j'ai pour ma candidature vont croissant. Alors moi, ça me donne confiance. Je sais que les Québécois ont un lien de confiance à rebâtir avec la coalition, qu'ils ont soif de changement et moi, j'incarne le changement. Donc je demeure très, très positive et optimiste.
Antonine, est-ce qu'elle incarne vraiment le changement?
Bien, ça dépend à quoi tu la compares. Par rapport à un Charles Milliard ou un Paul Saint-Pierre Plamondon, beaucoup moins, parce que t'es la CAQ. Tu peux pas te sauver de ça. Mais en même temps, c'est sûr que si tu compares les chiffres dans le sondage sur entre Bernard Drainville et elle, bien, elle l'incarne plus que Bernard Drainville. Donc, elle, en ce moment, sa priorité, c'est de gagner la course. Donc, elle veut marteler ce message-là à l'interne. Et il faut quand même dire que c'est une chute un peu spectaculaire depuis le dernier léger pour Christine Fréchette, parce que bien que les intentions de vote à l'interne pour les membres de la CAQ, oui, elle est en avance et tout ça, mais il y avait des projections très intéressantes de sièges où on voyait qu'elle allait en chercher beaucoup plus, en fait.
Ben, elle allait en chercher 28.
Puis Bernard Drainville, 0.
Mais là, Bernard Drainville à 13 % elle à 15. Fait que ça s'essouffle rapidement, Christine Fréchette.
Donc, sa grande avance pour l'élection générale a fondu comme neige au soleil. Exactement. Donc, ça démontre tout le défi de la CAQ. Parce que moi, j'ai l'impression que cette course-là, ben, premièrement, là, tout le monde est tanné d'en entendre parler.
Oui.
Donc là, c'est en train d'auto-nuire à la CAQ, ça, c'est sûr. De passer une semaine à débattre sur le troisième lien, je pense que ça a rappelé beaucoup aux Québécois que, ah ben oui, hein, c'est la CAQ. T'sais, c'est comme si on s'est dit, ah oui, c'est vrai, ils m'énervent, eux autres. Fait que là, on s'est rappelé un peu de ça, là, comme sur nos plaques d'immatriculation, comme disait Lambert tantôt. Donc, il va y avoir un défi. Mais quand un des deux candidats va gagner la course à la chefferie, il va avoir quelques semaines de session parlementaire pour asseoir un peu son rôle de leader de parti et de premier ministre ou de première ministre. Et là, ça va être vraiment l'occasion de démontrer c'est quoi la CAQ de Christine Fréchette ou c'est quoi la CAQ de Bernard Drainville, et ça va devenir plus clair. Mais pour moi, il n'y a rien de tout ça qui est coulé dans le béton.
Lambert, est-ce que sont foutus Christine Fréchette ou Bernard Drainville dans ce changement-là qu'ils veulent incarner? Et je m'explique, puis je vais faire un comparatif avec le fédéral. Au fédéral, il y avait énormément de votes anti-Pierre Poilievre, donc Mark Carney a vraiment représenté le changement dans un parti qui était au pouvoir depuis 10 ans. Mais là, à la CAQ, il n'y a pas vraiment cet ennemi-là. T'es Paul Saint-Pierre, Plamondon n'est pas un ennemi, puis Charles Milliard non plus. Donc, ça va être difficile pour le futur chef de la CAQ. Je me trompe-tu?
Ah, absolument. Puis moi, on en a déjà parlé, Jeff, de la dynamique Mark Carney. Là. Moi, quand on parle de Mark Carney, puis là, j'entendais des collègues caquistes, d'anciens collègues caquistes me dire faut trouver notre Mark Carney, puis les libéraux, la même affaire juste avant, faut trouver notre Mark Carney. Mark Carney, c'est une donnée aberrante dans l'histoire de la politique canadienne. Là. C'est le profil absolument parfait, le CV long comme le bras, dans un moment de géopolitique qui est absolument inédit dans l'histoire récente.
Ben oui.
Pour arrêter d'essayer de chercher le Mark Carney, il n'y en a pas. Là, t'sais. Ni Christine Fréchette, ni Bernard Drainville n'a le curriculum vitae de Mark Carney et la prestance de Mark Carney et la dynamique qui va leur permettre de les propulser par-dessus. Bien honnêtement, moi, ce qui me fascine dans le sondage d'aujourd'hui, c'est le... T'sais, bon, on peut parler de l'un ou l'autre. Bien honnêtement, je ne veux pas dire qu'ils sont morts là, en octobre, là, parce que tu n'es jamais mort en politique, puis ça peut changer bien vite, puis un sondage n'est qu'une capture d'écran à un moment donné dans le temps. Mais tu as 43 % des gens qui disent se foutre éperdument de cette course-là. On parle quand même d'une course qui va déterminer qui sera là ou le prochain premier ministre du Québec. Là.
C'est dire à quel point la population en a soupé de la CAQ.
Exact, exact. Puis ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est réconciliable. Là. Je ne sais pas dans quelle mesure, que ce soit Bernard Drainville ou que ce soit Christine Fréchette, l'écoute des Québécois va revenir. Et c'est ça qui a coulé François Legault, c'est que les Québécois ne l'écoutaient plus. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe qui nous permette de croire que cette écoute-là va revenir des Québécois envers la coalition Avenir Québec. Moi, je pense qu'on se dirige beaucoup plus dans une perspective de que restera-t-il de la CAQ en octobre? Que restera-t-il de ce parti-là qui avait obtenu un score record en 2022? Est-ce qu'ils auront, ne serait-ce que le statut de parti officiel? Et sinon, est-ce qu'on pourrait pas assister à une union nationale 2.0 comme on l'a déjà vu au cours de l'histoire du Québec? Il faut se rappeler que c'est un parti qui regroupe plusieurs franges de différents partis différents, dont la seule et unique colle qui tenait tout ce beau monde-là ensemble, c'était M. Legault, le fondateur du parti. Et là, que ce soit François, que ce soit Bernard Drainville ou Christine Fréchette qui gagnent, on ne sait pas non plus quelles vont être les répercussions de ça. T'sais, imagine une victoire de Bernard Drainville à la chefferie, des retours comme ça, alors qu'il est le grand négligé dans cette course-là, ça s'est déjà vu. Mais là, tu as une trentaine de ses collègues, dont l'essentiel du Conseil des ministres.
Si on dit on veut pas te voir, c'est ça. On veut pas te voir, on veut Christine Fréchette. Hey, rapidement, chacun, en 30 secondes. Moi, pour moi, le PCQ à 15 % doit continuer à se concentrer. Capitale nationale, Chaudière-Appalaches, pour faire rentrer le maximum de députés et se créer une crédibilité après ça à l'Assemblée nationale. Puis du côté de QS, faut arrêter de rêver que Zoran Mandani existe comme Mark Carney. C'est une aberration qui est arrivée à New York, ça n'arrivera plus. Êtes-vous d'accord avec moi?
Oui, puis non. Pour le PCQ, je pense que oui, de faire rentrer des députés Québec, Chaudière-Appalaches, c'est une priorité absolue. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Mais Mauricie, Saguenay, tu sais, pour construire pour l'avenir, puis que les gens aient envie de se présenter aux prochaines élections, je mettrais quand même un petit peu d'énergie si j'étais Éric Duhaime.
Lambert?
Ben, je vais répondre sur Québec solidaire. Tu sais, comme j'adore parler de Québec solidaire.
Ben oui!
C'est Zoran Mamdani, effectivement. Ben, écoute, c'est quand même une lumière au bout du tunnel pour eux s'ils veulent s'en inspirer. Moi, je pense que ça commence d'abord avant tout par être conséquent. Il y a tellement d'enjeux dans les derniers mois dont on a parlé, où ils ont manqué de logique dans leur façon de prendre position, que ce soit le transport en commun, que ce soit la grève des transports en commun à Montréal, que ce soit, c'était quoi récemment, là, c'était l'histoire d'Alexandre Boulris dans Rosemont.
Exactement.
Tu as une règle que tu mets, mais là, tu l'enlèves dès qu'il y a un gars qui fait un job. Tu sais, ce genre d'affaires-là, il faut qu'ils arrêtent de faire parler d'eux pour des histoires qui ont, tu sais, qui n'ont aucune logique et qui ne touchent en aucun cas les préoccupations présentes des Québécois.
T'as entièrement raison. Lambert Drinville, merci d'avoir participé à cet échange-là avec Antonine Iaccarini. Honnêtement, c'était super intéressant. On a plein de commentaires qui sont entrés par texto. Merci beaucoup!
À refaire. J'adore Antonine. Antonine, je te salue puis toute la gang.
Salutations!
Salut!
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint-Denis.
Antonin Iaccarini, on continue le caucus avec Mark Carney qui, après avoir dit « Let's go, Donald, bombarde l'Iran », a été un petit peu plus tiède hier.
Nous adoptons cette position contre-cœur parce que le conflit actuel est un autre exemple à l'échec de l'ordre international.
Traitez-moi de gars qui veut faire du saccage dans le monde entier, mais moi, quand je vois l'Iran qui a financé le Hezbollah et plein de groupes terroristes, ça me dérange pas pantoute que Donald aille sortir les bombes puis fasse le ménage.
Ouais, j'aimerais être aussi catégorique que toi, parce que c'est le fun quand c'est oui, non, noir, blanc, on aime ça. Mais c'est sûr que c'est un mauvais choix pour les présidents et premiers ministres des pays de l'Occident, là, parce que premièrement, l'inquiétude, c'est que M. Trump, il respecte pas la constitution de son pays. Puis ça, peut-être qu'on peut se dire, ah, ça nous touche pas, mais il y a quelque chose d'inquiétant en termes de dérive démocratique, et c'est notre voisin.
Je suis très d'accord avec toi.
L'autre élément, c'est que des fois, on aurait envie, tu sais, on a raison, mais les résultats vont-ils nous donner raison? Je m'explique. Tu sais, moi, par exemple, Vladimir Poutine qui attaque l'Ukraine, dans mes fantasmes les plus fous, je me dis, j'aurais le goût qu'on se batte contre lui. Mais tu sais que tu vas embraser une région qui va avoir une escalade, etc., plus tu penses aux conséquences. L'Iran, c'est pas la Russie, on s'entend. C'est un régime qui est quand même affaibli. On peut faire des frappes aériennes, on n'est pas obligé de s'embourber dans un conflit qui va durer des années nécessairement. Et il n'y a personne qui est très enthousiaste à l'idée d'appuyer, de défendre la théocratie iranienne. Ça, là-dessus, on est 100% d'accord. Moi, je trouvais que la ligne de Carney cette semaine, elle était correcte. C'est-à-dire, oui, on appuie l'opération qui a eu lieu. Puis après ça, tu peux ne pas démontrer beaucoup plus d'enthousiasme.
Mm-hmm. Mais pourquoi il revenait en arrière?
Bien, à contre-cœur et tout ça, je me disais, c'était pas nécessaire de reculer à ce point-là.
C'est ça, hein?
Puis tu sais, je veux dire, là, tu dis une chose et ton contraire. J'appuie, mais ça me tente pas. Tu sais, c'est... Je
l'ai trouvé maladroit dans sa sortie.
J'aime le café, mais avec dédain. Je bois pas d'alcool, mais sauf cette bière-là que je bois à regret. Tu sais, c'est comme très ouais. Pas clair comme message. Est-ce que tu peux quand même, comme premier ministre, dire on a des préoccupations? Tu sais, par exemple, de dire, nous, on appuie l'opération, mais c'est sûr qu'on a des préoccupations pour la suite des choses, pour le droit international. On va être très attentif. On veut, notre objectif, c'est qu'il y ait des escalades par la suite. Je trouvais que son choix de mots était ordinaire, on va dire ça comme ça. M. Carney doit choisir ses combats avec Donald Trump. On ne peut pas toujours être en train de contredire les États-Unis.
Ça, c'est
non
clair.
Plus.
Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Je vérifie, puis on en parlera après la pause. Christine Fréchette vient d'annoncer, annonce de Christine Fréchette concernant sa vision pour le milieu de l'éducation. Donc, on regardera s'il y a une conférence de presse par rapport à
ça. Oui, en fait, Christine Fréchette annonce trois mesures pour l'éducation, notamment de stabiliser les budgets. Elle veut que les budgets soient plus réguliers. Elle veut faire des partenariats public-privé pour construire les écoles également. La troisième m'échappe, là, mais c'est des belles annonces, mais tu sais, c'est rien qui va changer le cours de la campagne.
Non, c'est ça. Public-privé, t'en penses quoi? Yannick Marceau, ce matin, disait que ça n'a pas d'allure. Crime, voyons donc, les terrains qu'on a puis les bâtisses, ça prend valeur. Faut pas être locataire, faut être propriétaire. T'en penses quoi, toi, rapidement?
Moi, je pense que ça dépend
pour
des projets.
Troisième, c'est-tu le fait de protéger les élèves, entre autres, sur les règles qui vont être au service des élèves, entre autres, le protecteur du citoyen. Il y avait comme une rumeur que c'était autour de ça.
En tout cas, elle veut protéger les budgets pour s'assurer que les services aux élèves soient jamais coupés.
Ouais, pour les restrictions budgétaires.
C'était la même que la première, mais oui. Donc, moi, ce que je pense intéressant avec cette annonce-là pour Christine Fréchette, route, la question des partenariats publics-privés, j'y reviens, c'est qu'elle va sur le terrain de Bernard Drainville, en fait, parce que c'est un ancien ministre de l'Éducation.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de ses accomplissements qui étaient pendant qu'il était ministre de l'Éducation. Donc, elle veut montrer qu'elle a aussi une vision pour l'éducation. Puis montrer un peu de contenu aussi, même si ça ne soulève pas les foules, ces propositions-là, bien... On a l'impression des fois qu'il faut comme candidat que tu aies apporté certaines nouvelles idées. Pour les partenariats publics-privés, moi, je trouve que c'est du cas par cas. Je pense que, de manière plus générale, il faut revoir la manière dont on fait des projets parce qu'on est lent, ça coûte cher, on le sait. Puis des fois, ça passe par des partenariats avec le privé. Mais des fois, non. Donc, ça dépend. Mm-hmm. Peut-être que les écoles, effectivement, ça pourrait être une bonne idée, en tout cas, de l'évaluer. Tu sais, pourquoi on ne fait pas des scénarios? Quand on voit qu'on a un projet, c'est pas obligé d'être un « one size fits all », là.
Je suis très, très, très d'accord avec toi. Antonine Iaccarini, on t'écoute dans le retour.
Oui.
Tout à l'heure.
Je serai tout l'après-midi à partir de 14h.
Je te salue pour le reste de la semaine parce que demain, je suis en congé.
Ben oui, tu nous
abandonnes.
Vendredi
abandonne. Également. Tu seras avec Pascal CV et avec Mathias Turcotte.
Entre bonnes mains.
Je te souhaite un bon caucus. Tu vas être en excellente main, évidemment. Et nous, on se fera se reparler lundi prochain. Après la courte pause, dans un instant, Boulevard 102, à l'émission On en jase. Pascal, tu nous as préparé un bon dossier sur l'essence. Raconte-nous ça un petit peu.
Ben, je voyais avec les tensions mondiales actuelles que tout le monde parlait du prix de l'essence. C'est souvent ce qui arrive, donc personne n'était surpris de ça. Mais quand j'ai vu la petite panique citoyenne qui s'est vraiment sentie de façon tangible sur les réseaux sociaux, c'est là où je me suis mis à lire quelques messages. Puis là, t'avais du monde qui disait « Hey, il n'y a plus d'essence à Beauport, dans tel secteur. Ils sortent avant même qu'on prenne le gars dans l'essence, qu'on le mette dans notre auto pour dire « Hey, arrêtez, on ne peut pas. Les prix commencent à monter. » Qu'est-ce qui se passait? Bien, ce matin, j'ai fait 10 à 15 appels dans les stations de différents secteurs. Fait qu'on va évaluer dans quel secteur les gens étaient plus paniqués, mais aussi qu'est-ce qu'on on doit tirer de tout ça.
Excellent. On aura également Lani Dufour, nouvelle chroniqueuse dans l'émission Nangeas, directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sera avec nous en studio. On va également parler du prix de l'essence. Comment les politiciens vont reprendre ça, le prix de l'essence? Et surtout, comment la hausse du coût de l'essence va venir affecter les commerces et surtout les commerces dans les régions. Donc, on parle de tout cela dans un instant à Boulevard 102, l'émission On en jase.
On en jase. Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Exactement, midi 37 minutes à l'émission On en jase. L'émission qui te résume au maximum l'actualité qu'analyse pour toi les grands courants politiques et les enjeux locaux. D'ailleurs, tout à l'heure, aux alentours de 13h, on va parler local. On va parler Saint-Roch qui va pas bien encore une fois avec le propriétaire du Bâti Bazac, Sao Cordero, qui ferme son restaurant Saint-Roch pour le déménager à Charlebourg. Donc, on va jaser de ça avec lui, des enjeux qu'il vivait au centre-ville de Québec et pourquoi il quitte tout simplement.
Heureusement, il garde la cantine Bâti-Bassac parce que c'est la meilleure soupe taille en ville.
Oui, mais...
J'ai peur d'avoir peur.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour un petit bout seulement. Ça aussi,
oui, c'est ça,
ça va partir.
Exact. Après, ben, on va aller la manger à Charlebourg.
C'est ça. 3 degrés présentement au thermomètre. C'est une superbe journée de semaine de relâche. 1 degré qui va faire ce soir. Demain, ce sera moins 8 degrés, moins 2 pour vendredi. Il n'y a pas vraiment de chance de précipitation. Peut-être un petit peu de neige demain, mais ça ne sera rien, comme on disait, pour écrire à sa mère. Au sport, 2 transactions quand même assez majeures. Première dans la Ligue nationale, le joueur de 36 ans, Tyler Myers, le grand défenseur des Canucks de Vancouver, qui vient d'être échangé aux Stars de Dallas en retour d'un choix de 2e et 4e tour. Les Stars pointent au 2e rang de la division Nord dans l'association de l'Ouest et ils ont 10 victoires consécutives. Également football, les Chiefs de Kansas City qui poursuivent leur reconstruction, ils ont échangé leur demi de coin étoile Trent McDuffie aux Rams de Los Angeles en retour d'un premier choix au repêchage, le 29e à la première séance, ainsi que d'un choix de 5e et de 6e ronde au repêchage de 2026. Et hier, le Canadien est étourdi par ce joueur.
Qui remet vers Smith. Smith, aidé maintenant par Grappo. Kenton, Celebrini. Paraît peut-être un peu moins bien sur ce tir, mais qu'importe. Matlin Celebrini.
On l'a découvert aux Jeux olympiques avec le Canada. Macklin Celebrini qui ajoute 4 points au compteur. Un but, 3 passes. Il est rendu à 87 points en 59 matchs. À seulement 19 ans, il est une étoile déjà dans la Ligue nationale. Les Sharks de San Jose qui ont battu le Canadien de Montréal 7-5. Prochain match de votre CH, eh bien, ce sera ce vendredi contre les Ducks d'Anaheim. Pascal, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on suit?
Grosse journée encore une fois. Il y a un sondage qui est sorti et ça place le PQ et le Parti libéral très serré. On a fait le saut. 31% des intentions de vote pour le Parti québécois. Ça fait longtemps qu'il est en avance dans les sondages, plusieurs mois déjà. Mais il est suivi de très près par le Parti libéral qui est rendu à 30%. Donc, montée de 4% pour le PLQ depuis le dernier coup de sonde. Et ça, c'est toujours réalisé par Léger. On l'a fait le 29 janvier dernier. Parti conservateur d'Éric Duhaime, c'est 15%. La Coalition Avenir Québec, c'est 13%. Et Québec solidaire, ça reste pas mal dans le même pourcentage. On est autour de 9%. Dans l'éventualité où Christine Fréchette est élue chef du parti, est-ce qu'elle fait mieux 15% des intentions de vote? Donc, on peut dire que non. Et la course actuellement entre les deux principaux candidats, Christine Fréchette et Bernard Drainville, n'aide pas nécessairement à faire monter le parti.
Si vous avez manqué le caucus avec Antonine Iaccarini et Lambert Drainville, où on a décortiqué ce sondage-là, ça va se retrouver sur notre page YouTube. Allez vous abonner.
Pour Paul Saint-Pierre Plamondon et son parti, ben on réitère, hein, on continue de le dire, il y aura bel et bien une consultation pour faire du Québec un pays. Et ça aussi, ça a été sondé sur la question de la souveraineté. 29% des répondants disent qu'ils voteraient oui à un référendum présentement. Alors, c'est sûr que quand on analyse tout ça, le contexte d'instabilité mondiale peut jouer. Ce n'est que qu'un sondage, on verra pour la suite des choses. Christine Fréchette met de la chair autour de l'os en éducation. Elle est allée d'un communiqué et veut faire appel au privé, entre autres, pour construire des écoles, donc centres de services scolaires qui deviendraient locataires dans ce cas-ci. On veut innover dans la construction et la gestion des infrastructures scolaires, donc on fait appel à des partenaires du secteur privé, chose qui a été réclamée depuis longtemps. Ça va attirer l'attention, c'est certain, mais on veut louer des espaces. En ce moment, il coûte en moyenne 40 millions de dollars pour bâtir une école primaire, puis entre 250 000 et 300 millions de dollars pour construire une école secondaire. Puis on veut accélérer les choses, donc que les grands constructeurs immobiliers québécois mettent la main à la pâte, puis prennent en charge la construction de nouvelles écoles aussi. On veut une loi pour protéger les services, donc protéger les services aux élèves. On veut déposer un projet de loi. Là. Ça pourrait garantir un budget pour les élèves en éducation, entre autres qui serait renfloué au rythme de l'inflation. L'été dernier, sous François Legault, on avait imposé des restrictions budgétaires de 510 millions de dollars au centre de services scolaires, puis ça avait fait vraiment réagir. Mais qui était ministre de l'Éducation à l'époque? Bernard Drainville. Est-ce calculé? On peut se le demander.
C'est clair, ça fait partie de la course à la chefferie.
On veut aussi plus de flexibilité aux écoles, puis on veut réduire la paperasserie administrative. Ça veut dire quoi? Bien, des services personnalisés aux élèves partout au Québec, un petit peu plus de pouvoir d'agir et de réfléchir au niveau d'une institution scolaire. Probablement aussi que le bout de demander pour avoir de nouvelles feuilles pour mettre dans l'imprimante, on est rendu tanné là-dedans. L'extradition de Dave Picturmel, c'est le cahier de la blood de Family Mafia, celui qui l'a leadé pendant de nombreuses années, eh bien, est en route vers le Québec. Du moins, ça a été approuvé. Alors, on le rapatrie à la maison. Peut-être une victoire pour sa mère. Lui devrait trouver ça un petit peu plus difficile parce qu'on disait qu'il était bien du côté de l'Italie. Mais la justice italienne a autorisé son extradition. Alors, je vous rappelle qu'il a été arrêté il y a à peu près un an là, à Rome. L'ex-fugitif est soupçonné d'être la tête dirigeante de la Blood Family Mafia. Il y a 15 jours pour faire appel de la décision, selon les informations des médias aujourd'hui. Les Canadiens qui sont coincés au Moyen-Orient, bien, il y a un nombre limité de sièges qui sont réservés pour les rapatrier. Et ça, c'est particulier. Ottawa en parle comme quoi c'est tout un casse-tête de ramener nos résidents canadiens d'ailleurs, du moins qui sont près du dit conflit au Moyen-Orient. Il y a peu de sièges à bord des vols commerciaux depuis Beyrouth et ça fait jaser. Sinon, Mark Carney s'est exprimé très franchement, clairement, et sans barrière sur ses relations avec Trump. Il les qualifie de « pas facile ». Il dit que c'est difficile d'aller traiter plein d'informations avec lui, que c'est déchirant et qu'on doit réfléchir sur absolument tous les mots qu'on utilise avec soin pour éviter un dérapage ou un retour de bâton. Et vous l'avez constaté, tension partout, Moyen-Orient qui est l'endroit de l'or noir par excellence, ce qui fait en sorte que les bombardements, la guerre, etc., fait aussi le prix du litre de l'essence depuis en fin de semaine. On est rendu qu'on a passé de 15 cents à 20 cents dans la région de Québec.
Hier, Spotted Beauport, il y a des gens qui mettaient, qui affichaient justement sur ce média social qui est Facebook dans le groupe Spotted Beauport. « Hey! À telle place, il n'y a plus d'essence, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? On va-tu manquer d'essence? » Et Pascal, tu as creusé le tout pour nous aujourd'hui.
Oui, en fait, je l'ai remarqué, puis j'ai lu les commentaires en me disant « c'est une farce. Est-ce qu'on a un genre de papier de toilette gate numéro 2 suite à la pandémie? » Ben non. Il y a des gens qui disaient « Hey, je suis allé au tel endroit sur le boulevard Laurier. » Il y a un gars qui est sorti pour me dire qu'il n'y avait plus d'essence, qu'il était dans 8 stations-service sans essence dans le coin. Là, on est du côté de Sainte-Foy. Ensuite, quelqu'un d'autre qui dit « Pouvez-vous m'expliquer l'augmentation pendant la journée? Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de faire de l'argent sur notre dos? » Ensuite, une chance qu'il n'y ait pas d'embargo sur d'autres produits parce qu'on voit vraiment comment le monde se garoche à nouveau. Et il y a beaucoup de gens qui commençaient à commenter qu'il manquait d'essence, effectivement, dans plusieurs stations de la région de Québec. J'ai fait le tour, j'ai fait plusieurs appels ce matin, peut-être 10 à 15 stations d'essence, peu importe elles étaient où. Et je vois que effectivement à Beauport, on avait plus de stations qui allaient manquer d'essence. Du côté de Sainte-Foy, tout au long du chemin de Laurier, merci à la dame qui m'a répondu, a dit ça a été intense hier, grosse journée. À partir de 9h, des gens qui se ruaient. Ça s'est un peu calmé autour de 14h30, quand le prix a augmenté quelque peu. Mais on voit effectivement des gens se promener de station-service à station-service pour peut-être remplir les réservoirs à moindre coût. Mais là où ça a brassé, c'est à Beauport. Et il y a un détaillant indépendant que je remercie, Steve Ouellette, qui a bien voulu répondre à mes questions avec des clips aujourd'hui. Ça semble vraiment avoir été pire à Beauport, selon ma revue. Et je lui ai demandé comment ça s'est passé, sa semaine.
Okay, lundi, ça a été une très grosse journée, plus que la normale. Puis hier, j'ai monté quand même assez tôt, ce qui n'est pas mon habitude, parce que mes réservoirs étaient vraiment bas en niveau.
Donc, si on courait après le papier de toilette à COVID, là, on a couru après l'essence pour la guerre en Iran.
Et pourtant, l'essence n'a jamais été plus haute que dans les dernières années, dans le coin de la COVID. On a même touché 2 $-ish, mm-hmm. là, quand je demandais à ces gens-là de me remémorer à quel moment il y avait eu un prix d'essence qui était haut selon leur passé professionnel. C'était vraiment en COVID. Donc, grosse journée pour ces voilettes. Lundi, ils voient que ça augmente. Les gens viennent mettre de l'essence dans leur voiture, même s'ils n'ont pas besoin de faire un plein. Ce qui fait en sorte que pendant sa semaine, bien, ça s'écoule vite, ses réserves, et on sera à la journée d'hier.
Bien, hier, c'est sûr qu'à l'ouverture, c'était très, très bon comme vente. Et j'ai monté aux alentours de midi et demi, 1 h. Là, c'est sûr que les ventes coupent beaucoup. J'étais obligé d'arrêter de faire la vente parce que, un, j'allais manquer d'essence, et deux, je la payais beaucoup plus cher que ce que je le vendais.
Donc, ce que je comprends, c'est que dans le baril, même si on l'avait payé moins cher, là, ça se vidait énormément. Et compte tenu que là, ces transactions se faisaient en temps réel à un prix plus élevé, bien là, il n'y a pas le choix de monter le prix pour justement tempérer les gens. Là.
Mais ça, il y en a plusieurs qui me le disaient que toute la semaine, ils ont été à perte ou presque parce que y avait dans leur inventaire, mettons, un prix qu'eux payaient à 1,49, mais il était vendu 1,37. Puis c'est comme une stratégie qu'ils décident d'avoir pour ne pas perdre la clientèle en se disant ben, t'sais, tout le monde est un peu à ce prix-là. Moi, je vais continuer de le mettre bas, même si je fais des pertes, parce que je veux garder mes clients à plus long terme, puis pas qu'ils se rappellent de ma station d'essence comme étant celle toujours la plus haute. Mm-hmm. Quand on en manque, il se passe quoi?
À partir du moment où je manque d'essence, il y a une livraison qui arrive que je paye beaucoup plus cher. J'aurais pas pu soutenir la vente, là, donc j'ai été obligé de faire l'augmentation du prix rapidement dans la journée.
Il a complètement changé ses stratégies de base.
Ben, en fait, c'est qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il a réussi à vider son inventaire au complet. Et là, la nouvelle essence qu'il vendait à ses clients, ben, il était beaucoup trop à perte. Alors, il a monté un peu son prix d'essence qu'on a vu partout dans les stations d'essence à travers la ville de Québec. Et ça a eu des conséquences sur les clients parce qu'ils s'en sont rendus compte.
Bien, aussitôt que le prix est monté dans l'affichage au chemin, c'est automatique. Là. Ça coupe à 80% les clients, que soit continuent le chemin ou vont carrément ailleurs. Là. Mais tout le monde dans mon secteur, à moi, était monté.
Parce que Pascal, ouais, c'est ça, pour le rappeler, c'est qu'hier, il y avait plusieurs stations qui montaient comme ça, mais il y en avait d'autres qui restaient plus basses parce que j'imagine le réservoir était plus plein. Donc, ça faisait en sorte que là, les clients avaient l'embarras du choix. C'était hier. Aujourd'hui, la hausse est quand même là entre 10 à 20 sous là, dans la région de Québec.
À Beauport, le prix de l'essence hier était beaucoup moindre, ce qui a fait en sorte que ça a attiré beaucoup de clientèle. On a vidé les réserves qui étaient à un prix moindre. Et ensuite, effectivement, soit avec l'essence qui avait été payée plus cher ou avec la nouvelle livraison, ben les stations-service ont dû s'adapter et augmenter le montant. Puis il l'a dit, on a vu là, une réduction de 80 % des gens. Fait qu'on a calmé la panique civile de cette manière-là. Est-ce que des gens apportaient des bidons? On a-tu vu un genre d'enjeu de panique comme du monde qui se battait pour des papiers de toilette?
Bon, je suis pas très vieux. Je suis propriétaire de la station. Ça fait maintenant 30 ans presque. Puis j'ai vu ça, moi, dans les années 90, là, régulièrement, là, quand il y avait des hausses d'essence. Je pense que c'est la guerre du Golfe, là. Je veux pas m'avancer sur des guerres fictives, mais dans la période de la guerre du Golfe, ça a duré quand même un bon moment. Puis ça, on voyait ça régulièrement, là, les personnes arrivaient avec des bidons, puis faire des réserves, là.
Mais là, on n'a pas eu de gens qui faisaient des réserves. Et c'est le même constat que j'ai dans mes 10 à 15 appels. Au moins, on a évité le « je remplis tout ce que je peux d'essence » pour peut-être économiser dans les prochains jours.
Donc, moins pire que la guerre du papier de toilette de la COVID, mais quand même un mouvement de panique qui a fait en sorte que les réservoirs se sont vidés à Beauport. Pascal Cévé, merci pour cet excellent dossier. C'est très apprécié.
On en jase. Jusqu'à...
Vous venez de le constater avec le dossier de Pascal Cévé sur le terrain, station-service de Beauport. C'était la cohue hier. Le prix de l'essence qui a monté dans la nuit à minuit entre 10 à 20 sous, dépendamment des endroits dans la région de Québec, ça frappe fort. Bien, on en jase, on parle des sujets justement qui vous touchent, comme le prix de l'essence.
Ouais, est-ce que vous avez fait partie de ces gens-là? 88-971-1021, parce que j'ai l'impression que des fois, on s'inter-influence. Voyons, on sont 15, moi aussi, je devrais peut-être aller mettre de l'essence.
Ouais,
je vois que notre nouvelle collaboratrice hoche la tête, pardon.
Exactement. On a le plaisir de l'accueillir en studio pour la première fois. Lani Dufour, nouvelle chroniqueuse politique et économique à l'émission On en jase, directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lani, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres? Merci de m'accueillir en personne.
Ça fait plaisir. Merci d'être à Québec. Lani, on parlait du coût de l'essence. Dis-moi donc, je faisais une réflexion ce matin puis je me disais, la famille moyenne, elle va dépenser plus en essence. Fait que nécessairement, elle va dépenser moins ailleurs. Puis tout à l'heure, on va parler avec un commerçant dans Saint-Roch qui ferme son restaurant. On est-tu à risque d'avoir du commerce local, justement, qui en arrache au coton à cause du coût de l'essence?
J'irai pas tout de suite dans ce genre d'analyse-là parce que effectivement, il a monté. Est-ce que ça va être temporaire? Est-ce que ça va rester? Bien, écoute, dans n'importe quelle crise, il y a eu de l'influence. Là, ça fait juste 48 heures. C'est sûr qu'on en parlait. Il y a un effet d'entraînement. Là. Les gens sont comme, ben, moi aussi, je vais y aller. Je vais aller mettre de l'essence et tout. Mais je veux juste le pousser un peu plus loin que seulement le coût de l'essence. Là, c'est que ça influence tout le reste. Tu as des frais de déplacement. Les entreprises font du transport. Fait que le prix de l'essence, c'est vraiment la base de tout. Fait que si ça perdure plus longtemps, là, je pense pas qu'on est là en ce moment, mais mettons que ça vient à perdurer, puis je pense pas que c'est ça qui va arriver, je me mets déjà un peu la main dans le cordeur, mais là, ça viendrait vraiment avoir une influence, puis notamment sur les politiciens. On a déjà vu Éric Duhaime aujourd'hui qui s'est positionné, il a rappelé la taxe carbone, de dire que ça avait pas de bon sens de pas l'abolir. On a eu l'abolition du prix plancher avec Samuel Poulain, qui est ministre maintenant de l'économie, auparavant qui faisait beaucoup pression avec Pierre Fitzgibbon, mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que les gens, les députés dans leur bureau de comté, ils vont en entendre parler. Puis si on le ramène un peu plus vers les régions, bien, c'est sûr que ça peut avoir une incidence entrepreneuriale parce qu'ils se déplacent plus, les distances sont plus grandes. Puis, comme tu dis, bien, l'argent va ailleurs. Là. Si ça te coûte plus cher faire le plein, bien, automatiquement, peut-être que tu vas couper dans le restaurant, tu vas couper dans les sorties. Là, cette semaine, c'est la semaine de relâche. On aurait peut-être déjà vu l'augmentation. Là. On ne se le cachera pas.
Oui, parce que souvent, quand justement les gens sont plus en déplacement, comme par magie avant les vacances de la construction, Pascal, on n'a jamais vu ça, hein? Un coût de l'essence qui augmente de 4 à 5 cents.
Ça, on fabule-tu? Clairement, non.
Non, puis tu sais, moi, le lundi, j'ai mis de l'essence, puis au Saguenay, on est chanceux, c'était 1,25.
Écoute, pourquoi vous êtes chanceux de même au Saguenay? Nous autres, Valero est à côté, Caroline.
Écoute, là, on pourrait nommer plein de grandes industries qu'on connaît bien au Saguenay. Je me suis toujours posé la question, puis peut-être que la réponse est bien simple, mais je ne l'ai pas. Pourquoi c'est toujours moins cher chez nous? Mais, tu sais, moi, c'est mordicus. Avant de partir, je fais le plein, puis je n'arrêterai pas à l'étape ou à Québec, parce que c'est vraiment plus cher. Là. Aujourd'hui, c'était 1,45 à peu près, 1,43. Puis ici, c'est bien plus cher que ça.
C'est
là.
Comme à la Terrière, quand on prend l'autoroute 20. Ouais. La Terrière, toujours plus bas, mais de beaucoup. Puis là, ouais. Même si tu attends, finalement, c'est beaucoup plus payant. Des fois, Costco, le nombre d'heures que tu attends, ouais. Peut-être tu perds de l'argent, là.
Oui, oui, c'est sûr. Après, je pense que ils sont quand même efficaces là, pour y aller de temps en temps ici. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr que si ça dure, ça peut vraiment avoir une influence. Mais là, pas de panique, tout le monde. On n'est vraiment pas rendu là. Puis comme dans tout, on l'a vu avec l'Ukraine. Là, ça avait des gros impacts sur les chaînes d'approvisionnement, notamment tout ce qui était les engrais puis l'agriculture. Ça se stabilise. La nature a horreur du vide, fait qu'on va toujours trouver une façon, on est débrouillard, puis on va réussir finalement à trouver un autre approvisionnement ou à trouver un terrain d'entente, parce que le fameux détroit là, qui est bloqué, ben, il ne pourra pas l'être éternellement.
On disait qu'au Canada, il y avait énormément de réserves comparativement à ailleurs dans le monde. On est bon au moins dans la réserve pétrolière. C'est vrai ça?
Écoute, j'ai pas l'information en termes de quantité, mais c'est sûr que avec l'Alberta, puis tu sais, on s'entend que dans l'Ouest canadien, là, on est beaucoup plus propice à faire ce genre d'initiative-là. Ben, ça peut avoir une incidence, oui. Puis là, à voir comment on va tirer notre ficelle là-dessus au Québec, parce que ça va, c'est sûr, les fournisseurs, si vous disiez que justement les réserves diminuent dans les stations, ben pourrait avoir cette tendance-là, mais tu sais. Rassurons tout le monde, là, c'est pas une question d'aller justement. On n'a jamais manqué de papier de toilette là, entre vous et moi durant la COVID. C'était vraiment une
putain. Même si on a paniqué.
C'est une impression, là. C'est ça.
Exactement. Dis-moi donc, tu t'es établi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est plus dur pour des commerçants en région de faire des affaires quand le coût de l'essence augmente comme ça, c'est-à-dire de réussir à faire des profits, garder notre business à flot, parce que nécessairement, il y a plus de transport qui se fait lorsqu'on est en région.
C'est sûr que les coûts de transport, ça a une incidence. Je te dirais que pour avoir fait plusieurs rencontres avec certains comités sectoriels dans des mandats, c'est une chose qui revient, notamment dans le secteur plus agroalimentaire, parce que déjà que les marges sont très faibles, transport aussi, ça fait en sorte que le fameux traverser le parc, là, ben, il est difficile parce que ça coûte plus cher. J'ai déjà eu vent, puis là, tu sais, je ne veux pas identifier personne, mais qui disait, ben écoute, j'ai reconstruit une usine, puis avoir su, je l'aurais construit pas au Saguenay parce que je mange tout en transport.
Je mange mes profits dans le transport.
Voilà, voilà. Okay. Fait que, tu sais, après, est-ce que c'est une façon de dire, ben on peut pas faire des affaires au Saguenay? Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut justement soit avoir des incitatifs pour les régions, puis pas juste la nôtre, là, pour justement s'établir, parce qu'on parle de création de richesses, on parle d'accessibilité aussi, puis on va se le dire, là, tous les enjeux sociaux de place dans les écoles, de logement, ben on vit pas ça chez nous. Là.
En effet.
Il y a des avantages. Après, il faut juste repenser. Puis c'est drôle, mon boss, il a écrit aujourd'hui une lettre ouverte dans le quotidien, puis c'est exactement, fait que je vais le citer pour pas prendre le crédit. Mais il disait que faut arrêter de penser pour les régions et se servir de ça comme un hochet politique. Parce que là, on va l'entendre, puis on l'a entendu dans la partielle, dans Arthabasca aussi. Tout le monde veut être le fameux parti des régions, mais au-delà d'être le parti des régions, va sur le terrain, puis demande-leur donc qu'est-ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils le savent.
En effet, Bernard Drainville, qui se dit le king des régions maintenant dans la course à la chefferie à la CAQ. Non, je te posais la question parce qu'on avait parlé avec le maire de Petite-Rivière-Saint-François lorsqu'il y a eu la grève au Massif, puis il disait, moi, j'ai des terrains, là. J'attends juste que le gouvernement développe ça, développe des entreprises. J'ai 1000 lots pour installer des maisons. Fait que je suis prêt, j'ai les écoles, j'ai un hôpital à Malbaie pas loin. T'sais. Donc, il faut vraiment passer à l'action. Là.
Les deux enjeux que je vois de ça, les ressources humaines, ça, c'est un enjeu partout, la rareté de main-d'œuvre, les blocs d'énergie quand on parle de projet. Parce que ça, peu importe on est où, c'est un enjeu. Puis tout le monde s'arrache, chaque région joue un peu du coude parce que c'est vraiment difficile d'avoir accès. Des dossiers, des projets, il y en a. Là, on se souvient de la fameuse phrase de Pierre Fitzgibbon qui disait qu'il y avait une pile de projets qui refusaient. Bien, on est encore là-dedans. Là. Ouais, il n'y a pas plus d'électricité au Québec. Là.
Non, en effet, c'est un des gros problèmes. Pour rappel, on parle avec Lannie Dufault, directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapult et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nouvelle chroniqueuse dans l'émission. On en jase. L'incertitude économique. Pascal nous donnait les résultats du sondage tout à l'heure. 31% maintenant le PQ, il était à 39 en décembre. Puis 30% pour les libéraux qu'on croyait morts avec Pablo Rodriguez.
Ouais.
C'est-tu l'incertitude économique qui amène ce résultat-là?
Je dirais que c'est multifactoriel parce que... Puis c'est tellement le fun quand on a un sondage, une journée d'une chronique, parce que ça nous donne du jus. Ça nous donne pour le Parti libéral du Québec, très bonne posture. Moi, si j'étais eux aujourd'hui, je serais très content. Faites beaucoup d'entrevues aujourd'hui, Charles Milliard. Est-ce que c'est l'effet Milliard ou le contexte? Beaucoup plus le contexte, à mon avis, parce que, justement, on est en termes de l'effet Mark Carney, la situation un peu précaire. Le Parti libéral a tout le temps été un parti de gouvernance. Donc, est-ce qu'on revient à ça consciemment? Non, mais inconsciemment, ça peut certainement avoir une incidence parce qu'on sait c'est quoi la promesse du Parti québécois. C'est de faire un référendum, même si là, on a nuancé un petit peu la semaine dernière en disant « Ah, on va peut-être être plus en mode attendre, on fera pas ça du jour au lendemain, on a d'autres projets, on veut se positionner comme le bon gouvernement, mais est-ce qu'il convainc à ce moment-ci PSPP? » Pas encore tout à fait, parce que justement, il parle quasiment juste de ça. Fait que là, ça vient avoir une incidence. Si je reviens rapidement au Parti libéral, ce sondage-là, ce qui est super important, puis que si j'étais le Parti québécois, j'aurais très peur, 55 ans et plus, en majorité pour le Parti libéral.
Et eux se déplacent. Ils se déplacent quand pour aller voter.
Donc, très bon score pour eux pour aller chercher les votes. Donc, ça se traduira sûrement même en plus de pourcentage le jour du vote, si ça reste comme ça, parce qu'on sait que tout peut changer, tout peut basculer à tout moment. Mais s'ils réussissent à garder le 55 ans et plus, bien, clairement, ça va avoir une incidence parce que la CAQ, c'est ça qui s'est passé. Là. Il était beaucoup plus dans les dernières années avec eux.
C'est dur de déduire l'inconnu. C'est dur de savoir comment ça se passe, l'inconnu, puis le fait d'être, par exemple, un pays au Québec. Effectivement, l'incertitude semble jouer. Puis je vais aller plus loin parce qu'on parlait tantôt de ressources de pétrole. Puis automatiquement, le réflexe des gens au 88-971-1021, quand on parle de choses canadiennes, c'est d'écrire, bien, si on sépare du Canada... Donc, on a ramené le séparatisme dans la conversation. Si on sépare du Canada, bien, on n'aura plus accès au pétrole de la même manière. Ces enjeux-là, ça joue dans la tête des gens, c'est certain, parce que nous, en texto, on le voit, là, comment ça teinte les choses.
Oui, on ne sait pas comment ça va se matérialiser. C'est encore flou parce qu'on ne l'a jamais vécu. Puis cette crainte-là, bien, peut vraiment avoir une incidence. Puis on va se le rappeler, là. La souveraineté n'est pas... populaire en ce moment. On en parle, puis les votes qui vont au Parti québécois, parce que pour l'instant, tu sais, ce qu'on lit là-dedans, c'est qu'ils seraient encore au pouvoir majoritaire, minoritaire à voir, mais parce qu'ils ont le vote francophone. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont là en stationnement, là, un petit concept bien ben rapide, c'est que le fait de voter pour le Parti québécois, de donner ton intention, bien, ça veut pas dire que tu peux pas le changer, là, parce qu'ils ont leur base qui est forte. Mais cette mouvance-là, là, le vote plus mou qu'on voit en ce moment, bien, clairement, il peut changer. Puis d'ici les derniers mois, il n'y avait pas d'option intéressante pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on voyait beaucoup une majorité vers le Parti québécois. On était comme, bon, mais moi, je ne veux plus du gouvernement au pouvoir.
C'est un qui incarnait
donc,
le changement.
Je vais vers le changement, puis c'est ça qu'on voit. Là, on est à 74% de « ça va mal », puis 72% de « je veux du changement ». Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, tu votes pour l'autre qui avait de l'allure, qui était un chef, puis qui avait des propositions conscientes, mais c'est sûr que ça va bouger d'ici l'automne prochain, là, parce qu'on va arriver avec d'autres propositions. Seul conseil que je donnerais justement au Parti libéral du Québec, bien, saisissez cette opportunité-là parce qu'elle est très grande.
La ligne du fond, merci infiniment de t'être déplacée en studio.
Ça fait plaisir.
C'était vraiment plaisant de te voir. C'était toujours plaisant en studio. Donc, la porte est ouverte à nouveau quand tu passeras
à
Québec.
Mais fais pas le
parc
pour nous, là, au prix de l'essence.
Non,
là,
c'est ça, exact. Mais je vais mettre du gaz avant de partir.
Okay, ouais, c'est ça. Nous autres, on va aller tanker au Saguenay. Non, c'est pas une bonne idée. On va faire trop de route. Lali, on se reparle bientôt.
Salut.
Merci. À l'émission On en jase, dans un instant, on va parler avec le propriétaire du bâti Bazac, c'est-à-dire Monsieur Sao Cordero. Il a décidé de fermer son restaurant dans Saint-Roch pour le déménager à Charlebourg. Et également, on va parler avec Christine Normandin, leader pour le Bloc québécois. Le Bloc québécois qui critique les positions de Mark Carney en ce qui a trait au rapatriement des Canadiens qui sont coincés au Moyen-Orient. Dans un instant, à On en jase. Oh oui, on vient de faire un excellent bloc sur le prix de l'essence avec le dossier de Pascal CV sur le manque d'essence à Beauport et la chronique de Lani Dufour, nouvelle chroniqueuse politique et économique avec nous, Lani, qui est directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communication. Pascal, il y a des problèmes en circulation.
Oui, je te faisais signe parce que fin de l'accès de la rue Georges-Muir vers Laurentienne-Nord, c'est partiellement entravé, il y a une panne. La SQ est sur place, donc on va procéder au remorquage aussi dans les prochaines minutes, mais ça ralentit le secteur.
Donc, une autre bonne raison pour nous écouter, c'est qu'on fait de l'excellente circulation. On parle d'enjeux locaux, on va en parler justement avec le propriétaire du Bâti Bazac, Sao Cordero, dans quelques instants. Vous le savez, pour nous joindre, 418-971-101, mais surtout pour nous écouter. Il y a la radio traditionnelle, mais il y a notre application Boulevard 101 disponible sur App Store, Google Play Store. Votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD » ou encore notre web radio au blvd.fm. Pascal, en manchette, que se passe-t-il dans notre grande actualité?
Les deux candidats à la chefferie de la CAQ mettent de la chair autour de l'os parce qu'ils présentent des choses. Aujourd'hui, entre autres, Bernard Drinville veut couper l'aide sociale des demandeurs d'asile. Il veut donc réduire l'attractivité du Québec. C'est vraiment une position qui a prise, en fait, par rapport aux demandeurs d'asile. On veut limiter à 6 mois l'aide sociale, retirer l'accès à la location pour le logement, limiter l'accès aux logements sociaux et limiter l'accès aux CPE et aux garderies subventionnées. De son côté, Christine Fréchette s'en va jouer dans l'ancienne TAL, le terrain de jeu, voire de Bernard Drinville, soit en éducation. Elle arrive avec des changements. Entre autres, elle veut faire appel au privé pour construire les écoles, donc les centres de services scolaires qui vont devenir locataires. Entre autres, parce qu'on veut accélérer la construction, la gestion des infrastructures scolaires. Et on veut faire appel à des partenaires du secteur privé. Aussi, en louant ces espaces-là, ben, ça va nous permettre d'aller plus vite dans les projets en éducation. On veut une loi aussi pour protéger les services, surtout ceux aux élèves. Donc, on veut déposer un projet de loi qui garantit que le budget sera consacré aux services. Puis, on veut aussi réduire tout ce qui est paperasserie administrative. Et je te peux te parler des sondages, bien sûr, qui ont été fort regardés aujourd'hui. Les libéraux, les péquistes qui chicanent pour vrai dans les intentions de vote suite à un coup de sonde léger. 31% des intentions de vote vont au Parti québécois. De très près, le Parti libéral suit avec 30%. Donc, c'est une montée quand même importante pour le Parti libéral du Québec. C'en est suivi par le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 15%, la Coalition Avenir Québec à 13% et Québec solidaire à 9%. Et Saint-Roch fait encore jaser. Après 25 ans, une institution qui a même rénové ses locaux et tout ça, le Bâti Bazac déménage. On ne ferme pas, mais on ferme pour l'instant. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Et ce pourquoi? Bien, pour aller à Charlebourg.
Exactement. Et pour en parler avec nous, on a justement le propriétaire du Bâti Bazac, Sao Cordero, au bout du fil. Monsieur Cordero, comment allez-vous avec cette nouvelle?
Ah, c'est drôle, en passant, Cordero, c'est mon surnom. C'est Sao Kwan. Je me suis retenu pour pas rire.
Ah, ben il n'y a pas de problème. Rappelez-moi votre nom, je m'excuse, c'est le nom qui m'avait été transmis.
Appelez-moi Sao.
Bon, ben Monsieur Sao. Pourquoi cette nouvelle et pourquoi vous déménagez de Saint-Roch?
Ben écoute, je me suis fait bombarder de la même question depuis 7h45 ce matin. Fait que, tu sais, c'est pas une fermeture, c'est juste une évolution. Tu sais, le bâti, ça existe depuis 25 ans. Et, tu sais, on continue. Mais, tu sais, sur une forme plus moderne puis adaptée aux nouvelles habitudes de consommation, je dirais.
Est-ce que c'est parce que Saint-Roch devient de plus en plus difficile avec la cohabitation de tout ce qui est demande sociale, etc., avec d'autres commerces qui ont quitté? Est-ce que ça fait partie des réflexions, le déménagement à Charlebourg?
Non, mais écoute, je pense que chaque commerce a sa réalité. Puis, tu sais, ça reste quand même la dynamique du quartier. Moi, je suis là. Tu sais, mes parents ont la bâtisse depuis 91. OK, tu sais, j'ai vu la transformation de Saint-Roch jusqu'à ce jour. Puis, écoute, c'est juste une réalité. Il faut juste s'adapter à ça. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est une décision qui est purement, genre, stratégique. T'sais, ça fait plusieurs années que, tu sais, j'ai réfléchi à ce modèle-là. Ben, tu sais, comme qui est Bâti Cantine. Mon but, c'est de mieux, comme correspondre à l'évolution de la restauration. Pour moi, c'est pas le quartier qui change mon plan, c'est plus ma vision.
Est-ce que Saint-Roch, que vous connaissez aujourd'hui, s'est dégradé comme il était dans les années 90?
Ben honnêtement, là, tu sais, moi, je me promène sur Saint-Joseph depuis que j'ai 5 ans, OK? Et dans mon temps, c'était beaucoup pire que ça. C'était comme la zone rouge. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est une autre réalité. Tu sais, t'as beaucoup de schizophrénie, là, tu sais. Je pense que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est tough. Mais il y a toujours des... Tu sais, je regarde les autres. J'ai des collègues restaurateurs les amis restaurateurs que, écoute, ça marche super bien. La business va super bien. Tu sais, ça dépend. Je pense que c'est du cas par cas. Puis, tu sais, nous autres, honnêtement, on est vraiment, on a une très bonne santé économique, là, bâtie pour elle. Tu sais, on n'a pas connu de baisse. C'est juste que, comme je dis, c'est une...
Ça a coupé, on vous entend plus. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou c'est de notre côté, mais on n'entend plus du tout. Ben, en gros, ce qu'on comprend, c'est que du côté du Bâti-Bassac, on déménage à Charlebourg. On dit que ce n'est pas nécessairement le contexte du côté de Saint-Roch, mais plutôt une stratégie opérationnelle. Est-ce que Charlebourg est plus intéressante? Est-ce que vous voyez ça, vous, les auditeurs, au 88-971-1021? Une facilité peut-être pour vous d'aller consommer ailleurs que dans Saint-Roch? Est-ce que ça pourrait expliquer la stratégie, en fait, de ce restaurateur-là qui décide de garder la petite cantine pour un bout, mais déménage son institution qui, depuis 25 ans, est bien logée dans Saint-Roch. Peut-être, Jeff, qu'on peut poser la question au 88-971-1021 parce que moi, je l'entends. Il ne dit pas que c'est toute la situation dans Saint-Roch. C'est vraiment une stratégie opérationnelle pour le restaurant. Il était bien implanté, ça roulait. Il y a quand même quelque chose à comprendre de ça puis qui reste mystérieux.
Oui, en effet, on a eu un petit problème technique, malheureusement, là, M. Sao qui n'est plus en ligne. Donc, on va tenter là, de le rejoindre à nouveau. En attendant, cependant, Pascal, on en parlait tout à l'heure dans l'actualité. Il y a des problèmes avec les personnes, les Canadiens, Canadiennes qui sont au Moyen-Orient. On n'est pas capable de les rapatrier. C'est dans l'actualité depuis hier. Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement canadien a libéré quelques places sur des vols pour les Canadiens qui sont pris au Moyen-Orient, mais c'est trop peu pour les gens qui sont là-bas. Et pour en parler avec nous, on a la leader du Bloc québécois, Mme Christine Normandin. Mme Normandin, comment allez-vous?
Ça va bien, merci vous-même.
Ça va super bien. Mme Normandin, qu'est-ce que vous feriez, le Bloc québécois, pour rapatrier plus de gens que ce que le gouvernement libéral fait à l'heure actuelle?
Ben déjà, faire n'importe quoi serait plus que ce que le gouvernement libéral fait à l'état actuel et a fait depuis samedi, là, parce que ça fait quand même déjà quelques jours que ça a explosé. Puis c'est pas comme si c'était une surprise non plus, là, le fait que ça se soit embrasé au Moyen-Orient. C'était une poudrière. Il y a personne qui se demandait si ça allait arriver un jour. La question, c'était quand est-ce que ça allait arriver? Et nous, on reste surpris, là, même avant de parler de la question des rapatriements, de réaliser que, ben, visiblement, il n'y avait pas de plan de contingence, il n'y avait pas de préparation, il n'y a pas d'informations qui ont été données aux Canadiens coincés là-bas qui auraient voulu pouvoir partir par eux-mêmes. Puis je donne des exemples. Il y a des gens qui disaient, ben, moi, je suis prête à essayer de me déplacer par voie terrestre vu que l'espace aérien est fermé, mais je ne sais même pas si c'est sécuritaire. Je ne sais même pas c'est où l'endroit le plus adéquat où je pourrais aller. J'essaie d'avoir l'information et tout ce que je reçois, c'est un courriel où on me répond en anglais plutôt qu'en français en me disant, ben, comptez pas sur le gouvernement du Canada pour un départ assisté ou un rapatriement. Sacrez votre camp le plus rapidement possible d'où vous êtes, mais par vous-même avec vos propres moyens. Donc déjà, en amont, il semble y avoir eu beaucoup de laxisme dans la mise sur pied d'un plan de contingence alors qu'on savait là, que c'était juste une question de temps quand est-ce que ça allait exploser.
Madame Normandin, je peux-tu vous poser la question? Est-ce que ça semble être un manque de plan ou littéralement on n'est pas capable de répondre à la demande qui semble assez importante au Moyen-Orient, comparativement à ce qu'on peut penser, nous, dans notre petit salon au quotidien? Est-ce que vraiment il manquait un plan ou il semble avoir des allures de manque de plan?
Il semble avoir des allures de manque de plan. Quand on n'est même pas capable d'envoyer un courriel dans la bonne langue, ben là, c'est difficile de blâmer autre chose que son manque de préparation.
Surprenez-moi, le Parti libéral du Canada envoie des communications uniquement en anglais?
Je fais un petit aparté, là, mais les députés, quand on reçoit des alertes, par exemple, pour un incendie ou quelque part, il a fallu qu'on fasse une demande parce que l'envoi en anglais se faisait souvent une dizaine de minutes avant l'envoi en français. Bon, c'est pas grave, on va laisser les francophones brûler. Donc, est-ce que ce manque de préparation-là me surprend? Pas vraiment dans les fêtes, malheureusement. Et si ça avait été mieux préparé, ben peut-être qu'il y a des citoyens qui auraient pu déjà avoir quitté par eux-mêmes, mais qui ont attendu parce qu'il n'y avait pas l'information. Fait que là, on ajoute au nombre qui pourraient potentiellement, si ça empire, avoir besoin d'assistance beaucoup plus concrète, beaucoup plus solide. C'est un gros nombre, là. On est au-dessus de 100 000 personnes là, selon les dernières informations qui se sont inscrites sur le site d'Affaires mondiales pour s'identifier comme étant à l'étranger. Donc, il semble y avoir un manque de préparation, peut-être un manque de préparation aussi au niveau des effectifs qu'on peut réorganiser à l'interne chez Affaires mondiales pour se concentrer sur une crise quand elle survient. Peut-être les points de communication avec d'autres oui. pays aussi pour savoir est-ce qu'on peut utiliser votre espace aérien, qui est votre point de contact, des associations, des collaborations avec d'autres pays aussi, là, comme la France, par exemple, qui semblait avoir déjà plus d'effectifs sur le terrain pour permettre des rapatriements. Ça, c'est peut-être un des problèmes du Canada. Ils ont moins d'effectifs sur le terrain. C'est plus difficile. Mais est-ce que des collaborations auraient pu être faites? Une priorisation aussi. Qui est prioritaire à sortir dans ce contexte-là? On n'a pas vraiment l'information. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est qu'un citoyen canadien qui est pris à l'étranger présentement n'a pas l'impression qu'il y a de plan, n'a pas l'impression qu'il peut compter sur son gouvernement. Si au moins il y avait un minimum qui avait été mis en place, on le saurait et on n'a pas cette impression-là. C'est d'ailleurs la question que vous m'avez posée, est-ce qu'il n'y a pas de plan ou est-ce que c'est parce que le plan n'a pas bien fonctionné ou quoi que ce soit? On s'en rendrait compte s'il y avait un plan comme c'est le cas pour la France, pour le Royaume-Uni. Et là, les citoyens seraient probablement déjà plus rassurés. Mais là, c'est pas le cas. On reçoit des courriels de gens qui nous disent « Ben oui, ma fille est prise à Dubaï, mon fils est pris à tel endroit, puis on sait pas ce qui se passe. Les vols sont annulés, l'espace aérien est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? » Ben ça aussi, ça ajoute au climat de panique. Là.
Mais il y a quand même un mouvement depuis un bout à ce niveau-là, entre autres des réductions là, de parutions canadiennes. On parle d'ambassades. On a coupé dans les coûts, les regroupements de bureaux, la colocation aussi entre des alliés, la réduction des enveloppes budgétaires pour à l'international, avoir une influence, oui, mais aussi aider nos compatriotes si jamais. Donc, efficacité, coût, restructuration, ça a joué. Est-ce qu'on s'attendait finalement que ça pète au Moyen-Orient? C'est une question, mais quand on lit dans l'actualité qu'il y a des gens qui sont coincés puis un nombre limité de sièges réservés par Ottawa à bord de vols commerciaux, c'est-tu parce que tout ça nous dépasse?
Bien, possiblement, puis vous mettez peut-être un peu le doigt sur le bobo. De façon générale, le Canada a coupé un peu dans les dernières années au niveau de l'aide internationale, de la présence à l'international. Puis on ajoute à ça des coupures annoncées dans certains postes pour les fonctionnaires. Ça peut pas ne pas avoir d'impact. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on se ramasse finalement dans une espèce de tempête parfaite où malgré... Et je mets absolument pas en question la volonté des fonctionnaires. À un moment donné, ils sont juste capables de faire un bout par eux-mêmes, là. Et s'ils sont pas assez nombreux pour faire le travail, on peut pas non plus les blâmer personnellement. Mais est-ce que c'est symptomatique d'un manque de vision à long terme, d'un manque de volonté aussi d'investir dans une présence adéquate à l'international? Ben là, je pense que la question, quand on la pose, on y répond indirectement aussi.
Pour rappel, on parle avec Christine Normandin, leader parlementaire pour le Bloc québécois. On parle justement de ces Canadiens qui sont prisonniers du Moyen-Orient avec pas de plan de match du côté du gouvernement canadien pour les rapatrier au Canada. Chez Mme Normandin, qu'on ne siège pas à la Chambre des communes cette semaine, mais est-ce que vous avez quand même des communications avec le Parti libéral à savoir quand est-ce qu'un fameux plan va être déposé?
Non, on reçoit à peu près les mêmes informations que vous, à savoir, par exemple, la question des vols commerciaux, quelques sièges qui ont été réservés. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information et ça donne pas une impression de planification adéquate. Ça donne l'impression que le gouvernement sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Dans certains cas, on l'a vu dans le passé, dans des situations d'urgence, les députés étaient rapidement mis dans la boucle, on recevait des communications et là, on a à peu près rien, ce qui n'est pas nécessairement rassurant pour nous non plus. On ne peut pas passer ce message-là à nos commettants en disant « oui, on a de l'information ». Non, c'est silence radio pour nous aussi du côté d'Affaires mondiales, malheureusement. Donc, c'est visible. Il y a un ballon qui a été échappé sur celle-là alors que c'était... malgré tout, relativement prévisible que ça allait sauter à un moment donné.
J'ai déjà travaillé pour des entreprises de transport. On a toujours des plans B, des plans C, des plans D, justement, pour quand il arrive des catastrophes comme il arrive présentement au Moyen-Orient. Alors, vous êtes en train de me dire que le gouvernement n'a aucun plan déjà de rédiger d'urgence pour ramener des citoyens au Canada?
Mais s'il y en avait un, il me semble qu'on aurait eu un minimum de détails depuis samedi. Puis vous mentionnez les compagnies de transport, même les municipalités ont ces obligations-là d'avoir des plans de contingence advenant, par exemple, des catastrophes naturelles. Ça aussi, on se doute que ça va arriver un jour. On ne sait pas nécessairement quand. Une rivière qui déborde, une tornade, un ouragan, peu importe. Mais là, dans le contexte où on le savait, le Moyen-Orient, c'était juste une question de temps, qu'on n'ait pas déjà de plan A, B, C, D, E, où visiblement que ça ne transparaisse pas, parce que juste de le laisser transparaître qu'il y a un plan, ce serait en soi rassurant pour les Canadiens. Et là, ça leur donne vraiment l'impression que le gouvernement ne sera pas derrière eux pour les aider quand le premier message qu'il reçoit, c'est « comptez pas sur nous ». Je me doute que les Français qui sont rapatriés présentement n'ont pas reçu au jour 1 un message dans une autre langue pour leur dire « arrangez-vous tout seul ». Donc, si le gouvernement canadien avait un plan présentement, il est très, très bon pour ne pas le mettre au grand jour et il le cache très, très bien, ce qui me fait plus porter à croire que il n'y en avait tout simplement pas de plan. On a lésiné là-dessus, on n'a pas mis de ressources suffisantes pour être prêtes au moment où ça explose, avoir une switch on-off là, qu'on est capable d'allumer à partir du moment où la poudrière saute, ça donne vraiment l'impression que finalement, là, on a été un peu pris les culottes baissées avec une préparation inadéquate, puis on dit aux Canadiens, mais finalement, arrangez-vous par vous-même parce que nous, on n'est pas en mesure de vous aider ou même tout simplement de vous donner des informations de base si vous souhaitez par vous-même tenter votre chance.
Ouais, ça fait pas vraiment de sens. Ça, c'est un grand laxisme gouvernemental. Je termine cette entrevue, Mme Normandin, leader du Bloc québécois, avec la question, quelle est votre position face au conflit en Iran au Bloc québécois?
Je pense qu'il n'y a personne que je vais surprendre en disant que on n'était pas les fans numéro un de l'Ayatollah Khomeini. C'est un régime dictatorial qui était épouvantable avec la population civile, mais on a été tout autant éberlué par la prise de position rapide du premier ministre Carney et son soutien sans équivoque aux frappes américaines en dépit du droit international, en dépit même du droit domestique, le Congrès qui n'a pas été consulté là-dessus. Ça nous donne l'impression qu'il y a un changement de paradigme à l'international. Là, la règle de droit sur lequel tient l'ordre mondial, on semble avoir remplacé ça par une espèce de diplomatie des bombes, ce qui nous laisse perplexes, mais qui semble avoir laissé perplexes d'autres gens au sein de l'appareil gouvernemental, notamment la ministre Annan qui a tenté de remettre la patate dans le tube, le premier ministre Carney qui finalement marche sur la peinture, des députés libéraux qui sont sortis ouvertement contre ce soutien automatique du gouvernement canadien aux États-Unis. Donc, c'est la lecture qu'on fait de la situation actuelle. Il n'y a aucune empathie, aucune sympathie pour l'Ayatollah Khomeini, mais on aurait souhaité que le droit international soit appliqué adéquatement parce que la prémisse sur laquelle le droit international se base, c'est de sauver des vies humaines, des vies civiles. Et malheureusement, quand on y déroge, c'est pas nécessairement pour le meilleur.
Christine Normandin, continue votre excellent travail. Continue à mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'on rapatrie le plus rapidement possible les Canadiens qui sont pris au Moyen-Orient parce qu'on parle avec des gens qui sont là-bas depuis le début de la semaine à Boulevard 101. Puis les gens vivent un enfer. Les bombes, les missiles leur passent par-dessus la tête. Faut rapatrier ces gens-là au Canada pour qu'ils soient en sécurité.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Christine Normandin, leader parlementaire pour le Bloc québécois. Vous demandez des fois à quoi ça sert une opposition. Bien, c'est entièrement ça. C'est à mettre de la pression sur le gouvernement quand il y a un laxisme. Et là, il y a clairement laxisme. Il n'y a pas de plan d'urgence. Ça n'a pas d'allure. Toute bonne entreprise qui se respecte va avoir des plans d'urgence pour sécuriser ses employés. Dans le cas du gouvernement, bien, c'est ses citoyens.
C'est drôle parce que ça me faisait réfléchir. Puis moi, j'aime bien voyager. J'aime ça à l'extérieur. Puis j'avais fait un genre de plan auparavant. Parce qu'il y a aussi une assurance citoyenne à avoir envers soi-même. Comment est-ce que nous, on sort de la merde dans la vie? Puis c'est une question qu'on aurait pu lui poser, mais en même temps, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et si ça vous arrive ou si vous êtes dans un pays en ce moment à l'extérieur, bien, faut s'inscrire immédiatement auprès d'Affaires mondiales Canada parce qu'ils vont savoir où vous êtes. Ils vont vous contacter en cas d'évacuation. Ils vont envoyer des consignes, bon, précises si ça se peut. Il faut aussi contacter directement l'ambassade ou le consulat, s'il y en a une. Mais pas aussi uniquement attendre le vol gouvernemental. Puis ça, c'est aussi proposé. Contacte ton assurance voyage, ils vont t'aider, mais il faut avoir un plan personnel aussi d'évacuation parce que on se rend compte, là, si la situation devient critique, c'est pas toujours le Canada qui va être capable d'être hyper proactif. Puis là, quand on entend qu'il y a des vols, mais en quantité limitée, puis il va falloir choisir qui s'en vient, qui s'en vient pas, c'est une chose. Puis la politique de proximité, tes députés peuvent t'aider aussi. Mm-hmm. Ils sont plus près de toi, ils habitent peut-être dans ton quartier, ou quelqu'un ici au Canada capable d'être en contact avec tes députés, ça aide, si jamais.
Pascal CV, est-ce que la firme McKinsey, ça te dit quelque chose?
Oui.
Ah oui, ça te dit quoi?
Mais on est dans l'actualité avec ça. Moi, ça, par contre, ça me surprend.
Oui, la firme McKinsey, celle qu'on a embauchée à coût de millions de dollars pour gérer la COVID.
Consultation, on est un peu dans se sauver, on est dans la gestion, en fait, d'une crise, oui, c'est mais ça. Des fois sociale, des fois privée.
Mais là, coudonc, cette firme-là, as-tu des passe-droits? Parce qu'elle a reçu en 7 ans 32 millions de contrats chez Hydro-Québec. Juste l'an passé, c'est 3,3 millions de contrats pour réorganiser le travail de 8 000 employés. C'est la question qu'on va poser après cette courte pause dans un instant, Boulevard 102, l'émission L'en jase, au président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, Gilles Cazade. C'est drôle, McKinsey ont toujours ces contrats-là, mais c'est toujours des contrats que tu n'as pas besoin de faire d'appel d'offres, là.
Ça t'arrive comme ça.
Tu sais, les petits contrats de même.
Tu sais, si nous, c'était dans notre mémoire, c'est parce qu'on a entendu souvent parler qu'il y avait telle firme qui gérait un gros problème.
Ouais. Fait qu'on parle de cette situation-là avec Gilles Cazade immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102 à l'émission N'en jase. N'en jase. On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 102. Où tu as l'essentiel de l'actualité, tu as des excellents dossiers exclusifs également, et où on analyse pour toi la politique et les grands enjeux. À la météo, je vous le rappelle, c'est une très belle semaine de relâche. C'est 3 degrés à l'heure actuelle à l'extérieur. Cette nuit, ça va descendre jusqu'à moins 10 le mercure, moins 8 degrés demain avec 40 % de probabilité de neige, et moins 2 degrés pour vendredi. Si on regarde à plus long terme, on franchit pas à peu près le 0 degré ce week-end. 8 degrés, mais de la pluie pour samedi et 5 degrés avec généralement ensoleillé pour dimanche. Donc, ce sera un week-end très chaud de printemps. Circulation, Pascal, c'est plus actif avec la semaine de relâche sur l'heure du dîner qu'à l'habitude.
Quelques petites affaires ici et là. Cette fois-ci, c'est sur l'accès boulevard Raymond et la rue Labelle vers Félix-Leclerc-Ouest est partiellement entravée. Il y a une panne et je dois prendre les ondes dans la minute parce qu'on aurait tenté de tuer, d'assassiner Donald Trump. On vient d'affirmer ça. C'est le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, qui a dit ça. On n'a pas d'autres détails, mais c'est ce que l'armée américaine aurait défendu, soit son premier ministre. L'armée américaine a tué le chef d'une unité iranienne qui, lui, a tenté d'assassiner Donald Trump. C'est pour ça qu'on est allé en offensive de cette manière-là. On dit que le président aurait essayé d'avoir la paix par diplomatie. On est en point de presse là, actuellement du côté de la Maison-Blanche. Mais on dit que le chef du Pentagone a précisé que Donald Trump n'en avait jamais fait un enjeu d'opération militaire américaine contre Téhéran, mais c'était des réponses, en fait, qu'on avait assurées du côté de la Maison-Blanche. Je t'avouerais, c'est un peu confus avec l'information qu'on a depuis le début de la semaine avec les autres prises de parole du côté de Washington, mais hier, soit mardi, le chef de l'unité qui a tenté d'assassiner le président Trump a été traqué et tué. C'est ce qu'on a déclaré en conférence de presse sans préciser d'autres faits ou encore à quoi on faisait référence dans les dernières minutes.
Oui, ça a été dit de la bouche de Caroline Leavitt, porte-parole à la Maison-Blanche.
Non, c'est Pete Hegseth, comme je disais,
Pete Hegseth, OK.
Ouais,
mais c'est... Caroline Leavitt, présentement, est en conférence de presse et elle a parlé aussi que les terroristes tentaient justement de se munir de l'arme nucléaire.
Oui, il se donne la parole là, en ce moment. Mais c'est vraiment le ministre de la Défense américaine qui a dit ça.
Merci pour la précision. On en parlait avant la pause. La firme McKinsey, qui a toutes sortes de contrats avantageux avec le gouvernement sans passer par des appels d'offres. Et là, on apprend que dans les 7 dernières années, c'est 32 millions de dollars qui ont été accordés à McKinsey pour différents contrats avec Hydro-Québec, dont 3,3 millions l'an passé pour réorganiser le travail de 8 000 employés. Et pour en parler avec nous, on a Gilles Cazade, président du syndicat des spécialistes professionnels d'Hydro-Québec. Monsieur Cazade, merci pour votre présence à l'émission d'En Jase.
Ben, bonjour, Monsieur Fortin.
Monsieur Cazade, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin comme ça de McKinsey à Hydro-Québec? Vous n'êtes pas assez compétent?
Ben, écoutez, si vous me posez la question à moi, c'est bien évident que les employés d'Hydro-Québec sont très fiers d'être très compétents dans une entreprise qui est un fleuron de la sphère québécoise qui nous a permis de sortir de la Révolution tranquille, qui a été à l'avant-scène de tout, de notre émancipation. Et oui, moi, je pense que les employés d'Hydro-Québec sont des gens excessivement compétents, excessivement experts. Mais c'est vrai que quand on a vu, quand on s'est fait interviewer au niveau de ces chiffres-là, on s'est posé quelques questions quand même, à savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire. Et aussi, parce que au final, notre entreprise quand même sert à donner des dividendes aux Québécois, est-ce qu'on en a suffisamment pour notre argent?
En effet, parce que dans les faits, là, McKinsey, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Vous êtes président du syndicat, vous devez au moins savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec le 3,3 millions de dollars pour réorganiser le travail de 8 000 employés.
Ben, en fait, moi, je donne pas. Moi, je suis représentant d'un syndicat. Je donne pas je n'ai rien à dire dans ces décisions-là. C'est des décisions quand même de l'entreprise qui se joue pas.
Ouais, mais ma question se veut sur le terrain. Qu'est-ce que cette firme-là a fait de concret pour justement aider Hydro-Québec à être plus performante?
Ben, je veux pas y aller pour ce qu'elle a fait particulièrement cette firme-là, mais souvent ce que font les firmes de consultants, c'est qu'ils se font poser des questions pour se comparer avec le monde en général, ou du moins les grandes entreprises qui nous ressemblent. Le problème, c'est que vous le savez, tout le monde le sait au Québec, Hydro-Québec, c'est quand même une entreprise qui est unique, que ce soit par le fait que 99% de notre énergie vient de sources renouvelables. Ça vient du fait que nos centres de production sont très éloignés de nos centres de consommation. On a une expertise unique, une tension, c'est un régime de tension qui est unique aussi. Donc, et souvent, on va venir se comparer, faire du benchmarking, se comparer avec le marché normal. Mais dans le cas qui nous intéresse pour Hydro-Québec, étant donné le niveau de spécificité, on a du mal à voir quels apports, nous, d'un point de vue syndical, mais même du point de vue des employés, quel est l'apport extraordinaire qu'ils peuvent amener pour nous aider tant que ça. Puis on se pose des questions, un peu les mêmes questions que vous et votre public peuvent se poser.
Bien, surtout quand on voit conseil stratégique entre guillemets, pas ventilé, peu d'informations. Je pense que l'opinion publique et le public en général en a vécu pas à peu près des vagues où on a employé pour parfaire peut-être l'apparence. Ça se peut-tu qu'encore une fois, il y a un présage de tout ça, puis qu'on comprenne les gens qui nous écoutent en ce moment de rester un peu sceptiques?
Bien, je comprends les gens d'être sceptiques. Moi-même, des fois, je suis un peu sceptique par nature. Mais bien souvent, il y a quelques mandats qui sont donnés à des firmes de cette nature pour venir justifier ou pas une orientation stratégique ou la différencier entre une et une autre. Je pense que vous, par exemple, dans la région de Québec, vous avez vu pas mal d'études, je pense, sur un troisième lien. Donc, suivant ce qu'on veut faire dire, on embauche telle ou telle firme. Est-ce que c'est le cas? Je ne peux pas le dire. Je mets un doute raisonnable, on va dire. Et puis, à la question qu'on pourrait se poser, qui est légitime elle aussi, de dire, est-ce que les gens à l'interne sont quand même axés sur être des gens innovants, des gens experts dans leur domaine et qui peuvent proposer des solutions qui vont bénéficier à toute la population? La réponse est absolument oui.
Donc, on n'aurait pas besoin de dépenser 3,3 millions de dollars pour McKinsey. Vous êtes capable à l'interne de le faire, votre benchmarking, puis d'améliorer votre compagnie?
Ben, disons que ce serait, je vais le mettre à l'inverse, M. Fortin, ce serait surprenant que une entreprise ne veuille pas former ses employés, qu'une entreprise décide délibérément de les mettre en arrière de ce que doit être l'état de l'art de l'opération d'une entreprise de la taille d'Hydro-Québec. Et ce serait, moi je le mettrais à l'inverse. Donc pour nous, on est souvent, les employés sont souvent apostrophé, savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait changer. Donc, ça se fait dans un régime d'amélioration continue. Est-ce qu'on a besoin de ces grandes entreprises pour nous dire quoi faire? Je ne pense pas. Je peux vous donner, par exemple, un exemple de si jamais vous faites rentrer pour Hydro-Québec une entreprise qui va venir évaluer notre performance par rapport à d'autres entités en Amérique du Nord, par exemple. Une entreprise pourrait venir dire à Hydro-Québec, je trouve que vous dépensez beaucoup trop d'argent pour vos pylônes du réseau de distribution parce que vous mettez des pylônes beaucoup trop gros par rapport à ce que tous les autres dans le monde entier, même en Amérique du Nord, mettent. La différence, c'est que vous le savez, tout vous comme moi, c'est que au Québec, il y a ce qu'on appelle l'hiver, puis l'hiver québécois est assez rude. Et en plus de ça...
Puis on a vécu la crise du verglas, là.
Oui, mais c'est ça ce que j'allais dire. On a un endroit géographique qui est plutôt favorable à la création de verglas. Donc, c'est normal qu'on dépense plus cher pour avoir des gros pylônes parce que ben, c'est ça. Notre géographie puis notre condition de température oblige qu'on en ait.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire « Vous dépensez trop cher dans vos pylônes? » Je pense pas. Ça dépend de la question qui est posée.
C'est ça, exactement. Hey, je termine l'entrevue, M. Cazade, Gilles Cazade, président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. J'imagine qu'avec le plan de développement de 10 à 15 milliards ayant comme échéancier 2035, là, les hauts dirigeants doivent être nerveux et engager plein de firmes pour vous entourer parce que vous n'êtes pas capable de le faire, ce plan de développement-là?
Ben, en fait, je trouve que vos chiffres sont même vraiment en deçà de ce qui est prévu parce que actuellement, ce qui est prévu, c'est entre 150 et 200 milliards jusqu'en 2035.
Oui, c'est vrai, pardonnez-moi.
Donc, il y a un léger facteur de plus. Et si on se rappelle aussi le passage de nos vice-présidents à l'Assemblée nationale, je pense plutôt dans l'année, lors des commissions de l'environnement, il a annoncé plusieurs centaines de milliards de plus pour la partie 2035 à 2050. Donc oui, c'est beaucoup d'investissements qui est prévu par l'entreprise. Investissements qui, on pourrait regarder le plan en tant que tel, mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est prévu. Est-ce que ça se concrétise à l'interne par des vagues d'embauche? La réponse est non, Monsieur Fortin. Et on va rester à peu près au même nombre d'humains qui vont être payés sur par Hydro-Québec. Donc, est-ce que ça va bénéficier aux Québécois ou plutôt aux entreprises privées? Ma perception est plutôt de la deuxième. Et il faut voir qu'on est certes des employés d'Hydro-Québec, on est de fiers Hydro-Québécois, mais on est aussi des Québécois. Puis là, je prendrais plutôt mon chapeau de dire, avec un payeur de taxes, et j'aimerais ça que tout mon argent reste au Québec, qu'on ne fasse pas venir des pales d'éoliennes chinoises. Je préférerais qu'elles restent des pales d'éoliennes de Gaspé.
Monsieur Cazade, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, puis continuez à mettre de la pression sur votre employeur pour qu'on arrête de dépenser des millions de dollars dans des firmes externes.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fortin. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir. C'était Gilles Cazade, président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. Moi, ça me fait toujours capoter, Pascal, parce que tu payes des coordonnateurs, des chefs d'équipe, des gestionnaires à Hydro-Québec, des centaines de milliers de dollars, mais tu dépenses en 7 ans 32 millions en firmes externes. Il y a de quoi qui ne marche pas, là.
Ben moi, j'ai entendu et je retiens une chose de son discours parce qu'il y avait plein de choses. Puis on le remercie quand même d'avoir participé à l'émission, mais c'est de dire, des fois, on les engage pour justifier une embauche ou justifier un projet.
En effet.
Ça, probablement, c'est pour l'opinion publique ou avoir de l'argent de plus dans un dossier où ça ne fonctionne pas super bien. Puis d'après ce que j'entends aussi, c'est quand on les engage pour justifier quelque chose... On leur demande de prouver que c'est bon ou prouver qu'on en avait besoin, pour ensuite être capable de gagner le point. Fait que c'est sûr, c'est biaisé, là. Donc, il y a quelque chose là. Puis c'est ce que j'ai lu entre les lignes. Puis il y a des employés d'Hydro-Québec qui nous écrivaient pendant la nouvelle. Puis on aurait demandé à certains employés de justifier là, leur travail. Donc, ça parle aussi du temps perdu, forcé pour les équipes terrain dans ce genre d'embauche-là.
Oui, et une firme externe qui dit « Hey, vous mettez vos poteaux d'électricité trop gros au Québec. » Ouais, on a une température différente qu'aux endroits où vous avez évalué le tout. Courte pause à Boulevard 101 à l'émission On en jase et on termine l'émission en actualité avec Pascal CV. Puis je vais vous jaser un petit peu de sport.
Justin et Pascal CV.
Ah, qu'on aime faire de la radio pour vous, chers auditeurs de Boulevard 102.1. Cette émission tire déjà sa fin. Gravel dans le retour qui suit avec le trio de girls. Antonine Iaccarini, Véro Bergeron et Audrey Pinchot à l'animation. Ils font un excellent travail. Je
manquez pas
dit
ça,
tout à
pour
l'heure.
Vrai.
Ah, non.
C'est vraiment rafraîchissant.
Les filles sont ça coche pas à peu près et vous savez tout de l'actualité avec elles. Parlant d'actualité, Pascal CV... ça brasse, hein? Je regarde ça, Moyen-Orient, on a intercepté un missile qui allait vers la Tunisie. Là, il y a point de presse de la Maison-Blanche où on fait le suivi de la guerre en Iran, du conflit en Iran, et on apprend des nouvelles très surprenantes.
Mais Donald Trump, depuis un bon bout, essaie de dédouaner ou encore d'expliquer hein, pourquoi l'armée américaine est là, pourquoi on a attaqué, parce qu'on se pose des questions. Voyez-nous, le premier ministre au Canada ben, critique le manque de clarté de Donald Trump et les explications qui vont avec peut-être une offensive aussi percutante. Et là, il y avait effectivement point de presse dans les dernières minutes du côté de Washington. Et ce qu'on apprend avec très peu de détails, c'est qu'il y a une unité iranienne qui aurait tenté d'assassiner Donald Trump. Son chef a été tué hier, soit le chef de cette unité iranienne-là. Pas davantage de détails. On a fait un point de presse. C'est le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, qui l'a annoncé. Mais on apprend ça. Est-ce que c'est pour légitimer ce qui se passe? Écoute, les mots utilisés, c'est hier, donc mardi, le chef de l'unité qui a tenté d'assassiner le président Trump a été traqué et tué. C'est une conférence de presse. Après, on a parlé d'autres choses. On a dit qu'on a donc bien tenté de discuter, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, on est allé de l'avant en offensive pour ces raisons-là. Le chef du Pentagone aussi a précisé que Donald Trump en avait fait un enjeu d'opération militaire américaine contre Téhéran aux yeux de la population, mais ce n'était pas ça son but. Alors, lui, en réponse à des informations de presse, il a dit qu'il était rassuré par la façon dont ils agissaient. Donc, c'est un peu encore dans un genre de discours de « on avait raison de le faire, si vous saviez ce qu'on savait, ben vous comprendriez pourquoi on va de l'avant dans ce conflit-là ». C'est vraiment particulier. Il y a des responsables américains qui ont déjà été accusés dans le passé et qui ont accusé l'Iran, parce que c'était des deux côtés, de chercher à assassiner les têtes dirigeantes des pays, donc d'assassiner Donald Trump pour se venger et venger la mort du général des gardiens de la Révolution. Avant, c'était Qassem Soleimani. Il a été tué le 3 janvier 2020 en Irak dans une frappe de drone qui était ordonnée par Donald Trump au cours de son premier mandat. Fait que c'est une histoire de on est revanchards les uns contre les autres. Écoute, tellement d'informations manquantes, une chose certaine, c'est ce qu'on vient d'affirmer du côté des États-Unis. Sinon, Jeff, dans les dernières minutes, je veux te ramener à un endroit où tu étais en compagnie d'un ex-enquêteur à la SQ, Martin Bellavance. T'en rappelles-tu?
Hey, mais j'ai jamais eu de problème avec la police. C'est quoi cette affaire-là?
Non, mais si je te dis que Martin Bellavance aimait lécher des bottes. C'est revenu dans l'actualité.
Une compétition de cheerleading au centre des congrès. De mémoire, c'est en 2024. Je suis allé voir la fille de mon meilleur chum, Chloé.
Écoute, quand on dit que t'étais sur la nouvelle, ben t'étais dans la nouvelle parce que t'étais là où la nouvelle s'est créée.
Hey, j'aurais pu me faire lécher les bottes cette journée-là, Pascal CV.
Je le sais pas si t'étais son genre, mais t'aurais pu faire lécher et téter tes bottes. C'est ce que Martin Bellavance a fait. Donc, il a léché et tété les bottes d'une inconnue. Il était sous les estrades lors d'une compétition sportive sur des cheerleading. Puis il a décidé qu'il assouvissait son envie. Là. Et c'est effectivement en 2024. On était au Centre des congrès de Québec le 28 janvier. Homme de 53 ans qui assistait à la compétition de cheerleading, il était seul. Il n'y avait pas d'enfants qui participaient à la compétition et il y a un témoin qui l'a vu accroupi en dessous des bancs qui s'approchait des pieds d'une spectatrice. Là, il a regardé autour de lui pour essayer de s'assurer que personne ne le voyait. Puis il a commencé à lécher... Excuse-moi, c'est dur à lire sans avoir un petit fourré, mais à lécher le talon de la botte de la dame.
Ouais.
puis c'est ce qu'on a exposé. Donc, on a vu le geste, puis on a pris un téléphone cellulaire, on a filmé le délinquant, parce que c'est comme ça qu'on le qualifie maintenant, qui continuait de s'exécuter. Donc, il approchait sa bouche de la botte, puis là, il se mettait à la têter. Deuxième événement, donc, pire encore, belle avance, c'est retourné sur les lieux une autre fois, deux semaines plus tard, encore pour une compétition de cheerleading. On était rendu le 18 février et le même témoin qui l'avait filmé la première fois a remarqué le manège puis a encore vu l'ex-policier qui se glissait en dessous des estrades. Là, il a été interpellé par une entraîneuse et bon, il a fui les lieux d'un pas vif. On dit que c'est dépêché, mais il a été quand même photographié. Et là, on a dit que Belle Avance était aussi accusé de voies de fait envers la femme de qui a léché la botte, mais accusation qui a été retirée aujourd'hui. Donc, il a plaidé coupable à l'infraction d'action indécente qui vise la décence publique.
À chacun vos fantasmes. Pascal CV, je suis en congé pour les deux prochains jours. Tu vas prendre la barre de l'émission avec Mathias Turcotte.
Amuse-toi, profite-en, semaine de relâche, c'est le fun, il fait beau.
Yes, on vous souhaite deux excellentes émissions. L'actualité ne devrait pas manquer à l'émission d'En Jase. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Bon après-midi, guys! What?